Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix de Corée du Sud à Yeongam. Malgré la domination de Bernd Mailander, c'est bien sûr Fernando Alonso qui a remporté la course en 2h48 minutes et 20 secondes. Car oui, le temps sous drapeau rouge ne compte pas, mais il compte quand même. Même s'il compte pas, mais il compte quand même. Pour m'accompagner, il va nous expliquer les mille et une bonnes façons d'attendre pendant 45 minutes de drapeau rouge. Bonjour Dino.
Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Shinji. Mille et une. Putain, ça va être long. Déjà que j'ai prévu de parler beaucoup pendant l'émission.
Ah. Attention, j'en veux au moins une.
Une bonne façon. Écoutez les commentaires qui étaient pas mauvais en fait. Je trouve qu'ils ont bien meublé.
C'est bien. Il t'en reste plus que 1000.
Boire du Red Bull en priant fortement. Et ce qui marche d'ailleurs. Hein, prier en buvant du Red Bull, ça marche.
Quelle course quand même. Ah, pour une première, on s'en souviendra.
Bah, comme toutes les courses sous la pluie. Hein. Peut-être même un peu plus, parce que là, il y avait un côté je poirote.
Ça n'a duré que 45 minutes cette année. C'était une heure l'an dernier, souviens-toi.
Mais enfin, faut aussi rajouter tous les tours qu'on a eu le droit sous safety car.
Oui.
Parce que bon, l'an dernier, c'était une heure avant d'arrêter. Ah, c'était une heure avant de commencer, quand même.
C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai parlé de la domination de Mailander, puisque Bernd Mailander est le pilote qui a mené le plus de tours dimanche.
Même devant Vettel?
Même devant Vettel, parce que je crois qu'il y a eu 22 tours sous safety car.
Oh, je vais devoir refaire le classement Fantasy F1, ouais.
Donc, en fait, voilà, Vettel, je crois, il a 42 tours de comptabiliser. Donc, en fait, voilà, c'est... Donc t'enlèves les 22, donc ça fait plus que 20. Sinon, comme on l'avait vu avec F1 2010, c'est quand même une bien jolie piste. Il y a des choses à faire évoluer, ça c'est sûr. Notamment cette entrée des stands.
Et la sortie. Plus que l'entrée, moi personnellement, plus que l'entrée, qui est un peu tordue. Ils auraient dû, en fait, plutôt que d'essayer de suivre la courbe, ils auraient dû couper tout droit.
Oui.
Là où s'est tanké en fait Petrov, il coupait tout droit, l'entrée des stands était bien plus rapide et moins dangereuse. Allez, en plus elle était hors trajectoire, il fallait juste l'avancer de 15 mètres, je pense que ça ils vont modifier. Mais surtout ce qui est, je sais pas où ça leur est sorti, c'est la sortie des stands. On a quand même vu plusieurs pilotes rater leur freinage, on a même vu, je crois c'est vendredi pendant les essais libres, la safety car rater son freinage au bout de la ligne droite et couper à l'endroit où normalement les Formule 1 sortent des stands. Ce qui est quand même n'importe quoi. Alors que dans le jeu, la sortie des stands a fait tout autour du virage par l'extérieur.
Il faut qu'ils suivent le jeu.
Mais disons que la piste sur le jeu est plus finie qu'en vrai, quoi. C'est terrible.
Oui, c'est vrai. Donc une piste quand même qui a laissé une bonne impression dès les premiers essais libres.
Oui.
Même si, on a vu, elle était très poussiéreuse. Alors, on se dit, oui, la piste est verte, mais je me dis que comme il va y avoir des chantiers pendant près de 20 ans, c'est une piste qui risque de rester quand même longtemps poussiéreuse et Pour être honnête, j'ai même eu peur. Bon, la pluie est passée par là. J'ai même eu peur, en fait, que on ait un peu un scénario, tu sais, à la Hongrie. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, on n'est plus qu'une trajectoire.
Oui.
Et qu'en fait, il y a tellement de poussière hors trajectoire que finalement, ça aurait empêché les dépassements.
Bah, d'ailleurs, bon, après la qualification, tout le monde disait, faut absolument être du côté impair, du côté de la pole,
oui.
Pas de l'autre côté. Tout le monde savait très bien. Je crois que la FIT a donné le chiffre. À démarrage égal, il y avait 20 mètres de différence entre le premier et le deuxième de la ligne, juste à cause du fait que la piste est poussiéreuse et qu'elle est encore verte, quoi.
Sinon, bah un peu comme ce qu'on avait vu hein, pendant le jeu, c'est-à-dire cette première partie où il y a de vraies opportunités de dépassement. Et cette deuxième partie technique, mais intéressante. Ça m'a rappelé en fait un peu Abu Dhabi, mais en mieux. Et Abu Dhabi, c'est pareil, il y a une première partie rapide et une deuxième partie très technique. Non, la comparaison s'arrête là. Hein.
Moi, honnêtement, je vais dire honnêtement, j'ai dit les qualités du circuit. Maintenant, je le mettrai pas du tout au niveau d'un Malaisie ou d'un Turquie qui ont l'avantage d'être des circuits homogènes où on s'ennuie jamais. Oui. Là, faut quand même reconnaître qu'on a 3 lignes droites au cours desquelles on se fait chier. Certes, ouais, avec des freinages intéressants au bout, mais on se fait chier. Il y a des enchaînements de virages qui sont sympas, mais il y a d'autres virages dont on pourrait très bien se passer. Je pense notamment au virage à 90 degrés juste après la troisième ligne droite. ouais. qui est lent et qui n'apporte strictement rien. Il aurait mieux valu faire un virage assez rapide là où il y a justement l'échappatoire. Voilà, le circuit est intéressant. Moi, je le mets au, pour le moment, je le mets au même niveau qu'un Grand Prix de Chine ou qu'un Grand Prix de Bahreïn. Voilà, il y a des trucs intéressants, tout n'est pas bon.
Disons déjà qu'il est pas dans la catégorie circuit-il que de merde, on est bien d'accord quand même.
Bah, je le mets avec Bahreïn et avec la Chine et avec Abu Dhabi, qui sont classés pour beaucoup comme des circuits-il que de merde, donc...
Ouais, mais toi t'as des goûts bizarres.
Non, mais ça, c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes, il y a du compromis entre vitesse de pointe et passage d'appui, etc. Maintenant, le circuit en lui-même, voilà, moi, il me fait pas rêver. Personnellement, il me fait pas rêver.
Alors, parlons un peu aussi de la pluie. Alors, ce qui est drôle, c'est que après les qualifs, c'était pas du tout attendu, puisque même au sortir des qualifs, on parlait depuis le matin, mais pas l'après-midi. Puis ensuite, on a parlé de 50%, et puis finalement, il a plu quasiment en continu de la nuit, toute la journée, en fait. Ouais. La pluie n'était pas forcément très forte, mais il a plu tout le temps.
Mais en même temps, c'est la saison, je suis pas de méchant, ouais, mais on va en Asie du Sud-Est à cette saison-là. Je crois qu'on avait déjà fait le premier Grand Prix de Malaisie en 99, à ce moment-là, ouais. Et je me demande si le week-end avait pas été marqué par la pluie. Peut-être que la course était passée au travers, mais en tout cas, le week-end avait été marqué par la pluie parce que dans cette région-là, cette saison-là, c'est la saison des pluies. Et l'année prochaine, je suis sûr qu'on va vous coller le Grand Prix d'Inde au même moment, à savoir la saison de la mousson. Super chouette, ouais!
Et d'ailleurs, contrairement au Japon où c'était vraiment l'aquaplaning qui posait problème, hein, parce qu'il partait en aquaplaning dès 70 km/h, c'était vraiment pas praticable. Là, cette fois-ci, c'était surtout la visibilité qui a gêné même jusqu'à la fin de la course, puisque c'était plus la pluie, mais c'était la nuit.
Alors, on en reparlera.
Voilà.
Alors, Shiji, j'aurais une question à te poser.
Oui.
Et quel jour étions-nous ?
Dimanche.
Dimanche.
Par hasard.
Oui.
Mais écoute, le dimanche, déjà, nous étions le lendemain de samedi.
Oh.
Hein. Et dimanche, nous étions le 24 octobre.
Jingle.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite. elle fait... C'est pas drôle, en fait.
Nous étions donc le dimanche 24 octobre. La Saint-Florentin. Quelques faits marquants du 24 octobre. En 1360, le roi de France, Jean II, de France bien évidemment, dit Jean le Bon, donc il devait être cool quand même pour s'appeler Jean le Bon, est libéré contre une rançon de 3 millions d'écus.
Déjà?
Non, c'est 3 millions d'écus, c'est de la monnaie. Point à la ligne. Tu ne fais pas de blague.
Ah, Shiji me connaît bien.
Le 24 octobre 1929, c'est un jour célèbre dans l'histoire de l'humanité. C'était le fameux jeudi noir, le premier jour du crack à la bourse de New York.
Ouais.
En 1934...
C'est d'ailleurs la journée mondiale de la drogue, hein, puisque c'est le jour du crack. Désolé.
En 1934, c'est Al Capone qui est condamné à 11 ans de prison et $80,000 d'amende. Et tu sais pourquoi il a été arrêté, Al Capone ?
Fraude fiscale, non ?
Exactement, pour fraude fiscale. On n'a jamais pu l'arrêter pour du banditisme pur. C'est le fisc, finalement, qui l'a rattrapé. En 1945, c'est la proclamation, plus exactement, la mise en application de la Charte des Nations Unies. C'est donc, en fait, la création, la naissance de l'ONU.
Ouais.
En 1962, le 24 octobre, les États-Unis établissent un blocus sur Cuba. Blocus qui a duré 13 jours, je crois, c'est pas le titre du fameux film.
Ouais, le film avec Kevin Costner qui s'appelle 13 jours, que je conseille d'ailleurs, qui est un très bon film sur la crise de Cuba. Après, effectivement, c'était la crise des missiles qui était installée à Cuba et qui chaque missile pouvait atteindre, je crois, la moitié ou les trois quarts des grandes villes américaines.
Le 24 octobre 2003, le Concorde, hein, le seul avion supersonique civil du monde, décolle de New York pour son dernier vol commercial sous les couleurs de British Airways. Les naissances, le 24 octobre 1767, naissait Jacques Lafitte.
1767,
Jacques Lafitte, ah ouais. Financier et homme politique français qui est décédé le 26 mai 1844. Je ne pouvais quand même pas rater une date pareille.
Non, mais en plus ça lui correspond bien à Jacques Lafitte.
En 1915, c'était la naissance de Bob Kane. C'était un dessinateur.
Je sais pas.
Il a créé un super-héros. Le plus classe de tous.
Batman.
Il a co-créé Batman.
Oh la vache! Batman. Eh oui.
Le 24 octobre 1927, c'était aussi la naissance de Gilbert Bécaud. Ils nous ont quittés un 24 octobre. En 996, c'était Hugues Capet, roi de France. Le 24 octobre 1944, c'était le décès de Louis Renault, le créateur de Renault, comme le nom l'indique.
Voilà.
Le 24 octobre 1991, nous quittait Gene Roddenberry. Et tu sais qui est Gene Roddenberry?
Roddenberry, c'est pas Star Trek?
C'est le créateur de Star Trek.
J'étais en train de me dire, merde, ce nom-là, je le connais, j'ai pas le droit de me tromper.
En 2005, c'était Rosa Parks qui nous quittait.
Ouais.
Hein, figure du mouvement des droits civiques qui eut le courage en 1955 de ne pas aller au fond d'un bus.
Il faut rappeler que jusqu'aux années 60, les Noirs devaient céder leur place aux Blancs, devaient d'abord se mettre au fond du bus, et s'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, les Noirs devaient descendre du bus.
Et c'était donc dans la ville de Montgomery, dans l'Alabama, et dans une des églises de cette ville, il y avait un jeune pasteur du nom de Martin Luther King.
Ouais.
Les célébrations du 24 octobre, eh bien naturellement, c'est la journée des Nations Unies.
Oui, logique.
C'est bon. C'est aussi la journée mondiale d'information sur le développement. En Égypte, c'est la fête de Suez. Donc je suppose que ça doit être lié au canal.
Et moi, GDF.
Ouais. Et en Zambie, c'est la fête nationale qui commémore l'indépendance du pays.
1960, 62...
64. Et donc en F1, ce jour-là, nous allons remonter au Grand Prix du Mexique 1965. Et le fait marquant du 24 octobre 1965, c'est que c'est une victoire de Richie Ginter, si j'écorche pas trop son nom.
Oui.
Et c'est la première victoire de Honda.
Oh!
Eh oui!
Oh non, ne nous refais pas l'histoire d'Honda.
Nous n'allons pas faire l'histoire de Honda.
Oui, je crains le pire.
Nous allons revenir sur les premières victoires des équipes, tout simplement.
Ah.
Je vais pas te donner le nom des équipes pour que tu me donnes les dates, parce que dans ce sens-là, ça serait un tout petit peu trop ardos. Non. Je vais te donner les dates, et tu vas essayer de trouver, quelle équipe a marqué sa première victoire. Donc je parle vraiment équipe constructeur.
D'accord.
Level 1, les équipes qui existent encore maintenant.
On peut se mettre en catégorie, c'est bien, je vais pouvoir trouver.
Voilà. Donc on va commencer par le 14 juillet 1951, c'était le Grand Prix de Grande-Bretagne.
Ferrari.
C'est facile. Bah oui, Ferrari. Quand même.
C'est la seule qui était là à l'époque.
Mais qui a gagné pour la première fois le 4 juillet 1954 au Grand Prix de France?
Mercedes.
Tu vois, il n'y avait pas que...
Oui.
Mais aussi Mercedes.
Ah, Mercedes, ils sont arrivés en 54 seulement, donc...
Ensuite, on va aller à Monaco 1960. C'était le 29 mai.
McLaren?
Non, je suis pas sûr d'ailleurs que l'équipe existait déjà.
Ouais, c'est pour ça que j'avais un doute. Dans les équipes qui sont actuellement présentes?
Oui. Enfin, après, ça peut...
Oui, non. Ah la vache, j'y pensais pas à elle.
Mais oui, bah oui, c'est Lotus. Et donc par contre, le 9 juin 1968 en Belgique...
C'est McLaren.
Ensuite, 1er juillet 1979 en France...
79, bah Renault. À Dijon-Prénois.
C'est une victoire de Jabouille.
Qui domine la course et derrière, vous avez une bataille de dans les derniers tours de Villeneuve et Arnoux qui est absolument fantastique.
C'est aussi la première victoire d'un moteur turbo.
Ouais.
Et deux semaines plus tard, c'est une autre équipe en Grande-Bretagne.
Bah Williams.
C'est Williams, c'est-à-dire que Williams a gagné après.
Ouais.
Pourtant, les palmarès sont pas les mêmes.
Ouais, mais en même temps, il y a eu Renault chez Williams qui a fait pas mal de trucs.
Ensuite, on va faire un grand saut, mais un très grand, hein, au 8 juin 2008 au Canada.
8 juin 2008, bah, BMW, donc c'est Sauber.
Bah, on peut dire les deux, en fait.
Oui, voilà.
Suivi le 14 septembre 2008 en Italie, là aussi c'est facile.
À Toro Rosso.
Toro Rosso, qui a donc gagné avant.
Red Bull.
Et c'était juste l'an dernier, ça va, tu peux...
Grand Prix de Chine, je crois.
Grand Prix de Chine, 19 avril 2009. Ça va, tu t'en es bien sorti. Ensuite, on passe au level 2. Les équipes qui sont plus là. Le 13 mai 1950 en Grande-Bretagne. C'est normal, c'est la première course, puisque c'était la première course de F1.
C'est Alpha.
Ensuite, en 53, en Italie.
Maserati,
exactement.
Ouais.
Italien, hein. Alpha, Ferrari, Maserati.
Les années 50, hein.
En 1957... Grande-Bretagne, le pays est un indice.
BRM?
Non. BRM, je peux le dire, c'est en 1959 aux Pays-Bas.
C'est Vauxhall, alors?
Van
Wall, pas Vauxhall.
Oui, c'est Van Wall, ouais.
Vauxhall, n'importe quoi.
Et entre les deux, justement, entre Van Wall et BRM, il y a en 1958, le 19 janvier en Argentine, une autre équipe anglaise.
Cooper.
Cooper, exactement. En 62, en France, le 8 juillet, Une équipe que j'avais oublié qu'elle avait eu une équipe entière en F1.
Matra ? Ah non, Matra c'est plus tard.
Non, c'est plus tard.
62, tu m'as dit ?
Ouais. Il pourrait peut-être revenir.
Porsche ?
C'est Porsche, oui. Suivi en 1964 par une autre grande équipe de l'histoire de la F1.
Brabham ?
Brabham, exactement. Donc 65, je l'ai dit, c'était Honda. 67, une équipe de... Elle n'est pas connue des gens qui connaissent pas vraiment la F1, mais normalement, nous, on la connaît. C'est une équipe américaine.
67 ?
67, en Belgique.
Une équipe américaine.
Et comme indice, j'ai envie de te dire cui-cui.
Ah, Eagle ?
Eagle, oui.
Ouais, c'est avec...
Chris Amon.
Chris Amon, oui, voilà. Elle a pas duré longtemps, d'ailleurs, cette écurie Eagle.
Ah non, c'est pour ça que je dis que faut vraiment connaître la F1 pour connaître l'équipe. En 68, Cocorico, c'était...
Matra.
C'était Matra, donc première écurie
avec
française.
Avec Stewart, non ?
Forcément, Stewart. Ensuite, en 70, c'est une autre équipe en M. Un M, d'ailleurs, puisque en fait le nom est un acronyme, un M que l'on connaît bien.
M... Non, je vois pas du tout.
Eh bien, c'est le M de Mosley.
Ah, March.
C'est le M de March.
Ah oui, March.
En 71, alors, March était en Espagne 70, en Espagne 71, une autre équipe, grande équipe de l'histoire de la F1, on peut dire, même si elle a pas forcément eu des immenses résultats, mais c'est une équipe qui a gagné.
71.
Qui a existé jusqu'à la fin des années 90.
Est-ce que tu aurais un petit indice sur la nationalité de cette équipe, s'il te plaît, Shinji ?
Elle est britannique. Et comme merde. Deuxième indice, je vais te dire tonton.
Tonton.
Si tu supplies, je peux même te donner un dernier indice.
Je te supplie, Shinji, un dernier indice, s'il te plaît.
Le dernier indice, c'est Barbie.
Ah, Tyrell.
Là, les amis, il y a plein d'auditeurs qui ont dit, non mais sérieux.
Pourquoi tonton ?
Mais c'est le surnom qu'il avait, Oncle Ken.
Ah d'accord, il s'appelait Oncle Ken.
Bah c'est Ken Tyrell.
Oui, non mais oui, non, mais, c'est pour ça que j'ai trouvé quand tu m'as dit Barbie. Mais.
Alors ensuite, une équipe dont on a parlé pendant les SAV, une petite équipe, c'était le 22 juin 1975, pardon, aux Pays-Bas.
75, bah c'est
britannique encore, oui, Esquette. C'est Esquette.
Avec puis, Hunt, je pense.
Avec Hunt, oui. Ensuite, un grand nom du sport automobile, c'était le 15 août 76 en Autriche. Et c'est pas anglais pour une fois.
Un grand nom du sport auto.
Une équipe qui existe toujours mais pas en F1.
Penske ?
C'est Penske. Ah. Oui, Penske a fait de la F1 et ils ont...
Oui, non mais... C'est pas le genre d'équipe à laquelle je pense en premier, quoi. Ouais.
Ensuite, on va aller au 9 janvier 77, en Argentine. C'était le premier Grand Prix de la saison. C'était aussi, il me semble, le premier Grand Prix de cette équipe. C'est un exploit qui n'a été refait que par Brown.
Ah. Alors ça, on l'a vu, 77, premier Grand Prix.
J'ai aussi un indice à la con.
Vas-y, un indice, vas-y.
Ouh. Oui.
Ouh. Wolf.
Oui.
Ah, tu me fais mal, le loup.
Mais je t'ai dit que c'était un indice à la con. C'est le loup qui ulule sous la lune. Puis je te rappelle en plus que j'habite en appartement, alors je peux pas non plus faire le ululement du loup au beau milieu de la nuit. Hein. Encore en 77, grosse période, au rallye. Non mais tu vas comprendre, c'était le Grand Prix de Suède.
Ah.
C'est pour ça à Suède. Tu comprends. Grand Prix de Suède. Et j'ai envie de dire encore Cocorico. En même temps, des Cocorico, il n'y en a pas eu 40 000, hein, donc
Ligier?
C'était Ligier. D'après toi, qui c'était?
C'est Ligier, Lafitte.
Il est né en 1767, c'est Lafitte. Puis, encore en 77, c'était au Grand Prix d'Autriche.
Ah la vache.
Là encore, c'est le genre d'équipe que si tu connais pas la F1, tu la connais pas. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, la remarque que je viens de faire, vu le nom de l'équipe.
Tu connais pas?
On va dire qu'elle pouvait difficilement être dans la lumière avec un nom pareil.
Shadow?
Oui! Non, c'est le festival des indices pourris, hein.
Écurie, ben, je crois que c'est une victoire d'Alan Jones, d'ailleurs, parce qu'on en a parlé lors de du sujet sur Castelli,
ouais.
Il y a deux semaines.
Ouais, exactement. Ensuite, on va aller en 86, au Mexique.
C'est rien passé. En 77, il y a eu 5 vainqueurs différents.
Mais tu sais quoi? Quand on regarde la liste globale, de 1950 à 79, on va dire, il y a grand maximum 2-3 ans d'écart.
Ouais.
Entre deux, avec parfois des années comme ça où il y a 2-3 équipes. Ensuite, il y a un énorme trou jusqu'en 86.
Benetton, avec victoire de Berger.
Non, Berger n'était pas chez Benetton à cette époque-là. Ah si.
Oui, voilà. Si.
Benetton, BMW.
En plus, j'ai fait l'article cette semaine sur les saisons qui se ressemblent et c'est le, je crois, Grand Prix d'Italie.
Mexique.
Grand Prix du Mexique et je crois que c'est
en octobre.
Grâce au changement de pneus.
Et première victoire de Berger.
Et il y avait eu, je crois, deux pôles de Théo Fabi sur Benetton aussi.
Donc 79, énorme trou jusqu'en 86. Puis énorme trou jusqu'en 98 au Grand Prix de Belgique.
Jordan.
Jordan, exactement. Ensuite suivi en 99 au Grand Prix d'Europe par...
99 Grand Prix d'Europe, c'est... pareil, je l'ai vu tout à l'heure. Stewart, Herbert.
Exactement, par Stewart. Donc 98-99. Et ensuite, gros trou jusqu'en 2008 en fait, et BMW Sauber. Ouais. Et le dernier, bien évidemment, c'est facile, 29 mars 2009. Mais est-ce vraiment la première victoire de l'équipe?
Braun.
Braun en Australie. Donc c'est bien, tu t'en es bien sorti sur le level 2. Et en fait, il y a aussi un level 3 caché, mais qui est en mode super S, super hard.
Hein? Ah vas-y, je suis fou, vas-y.
Alors, attention, le 30 mai 1950 à Indianapolis.
Alors ça, c'est... Ah merde.
C'est le mode super hard, hein. Normalement, tu peux pas trouver.
Non, non, mais je crois que je pense l'avoir, mais ça sortira pas.
C'est Curtis Craft.
Donc, voilà, Craft, oui.
Vous pouvez l'avoir. Voilà. Oui. Donc, je sais pas pourquoi ça me fait marque de biscuit. Je sais pas.
Oui. Tu aurais pas ça,
c'est pas logique, je sais, mais voilà. Ensuite, le 30 mai 1952 à Indianapolis, c'était Kuzma. Et le 30 mai 1956 à Indianapolis, en fait, le mode Super S, c'est Indianapolis, c'était Watson. Et enfin, le 30 mai, toujours 1957, à Indianapolis, c'était Epperly. Donc c'était les quatre dernières qui étaient impossibles à trouver.
Ouais, en même temps, c'est pas de la F1, c'est Indianapolis, quoi.
Le mode Spartiate, le mode, je sais pas quoi, ça dépend du jeu. Voilà. C'était tout pour l'éphéméride. Et donc pour toutes ces équipes qui ont gagné au moins une fois. Sur ce, on va passer à l'actu.
Oui, et aux cités du SAV.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT du SAV datée du 26 octobre. Et comme d'habitude, on commence par le podium de l'actu.
Oui, donc on va commencer tout de suite par la plus petite marche du podium, sur lequel ne vont pas s'asseoir seulement une personne, mais au moins un bon nombre, puisqu'il s'agit de Villeneuve et de Juan Villa del Prat pour Villeneuve et l'écurie, enfin la potentielle écurie Epsilon Euskadi, qui, un peu comme Martin Luther King, continue d'avoir des rêves.
C'est-à-dire qu'ils sont un peu comme des recalés du bac qui auraient 23 ans. Ils ont été recalés, mais ils y croient encore.
Oui, voilà.
Alors que, voilà.
Villeneuve, c'est plutôt 33-34 ans, hein, le recalé du bac. Hein. C'est Villeneuve quand même.
Ouais.
Donc Villeneuve qui a renoncé pour 2011, a renoncé à la F1 et entend avec Durango apparemment ils vont se diriger vers la NASCAR histoire de d'amener la gestion européenne en NASCAR. Ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai lu cette phrase du père Durango qui a dit on va amener la gestion européenne en NASCAR. Oui, genre ils en ont besoin. Hein.
Ils ont décidé d'appliquer la technique du branleur de sport automobile qui consiste quand on n'y connaît rien à se pointer dans une discipline et dire vous les gars qui pratiquez cette discipline depuis 40 ans, qui vous connaissez tous les rouages de cette discipline et qui gagnez des courses depuis 35 ans, eh bien moi j'arrive avec mes nouvelles techniques et vous allez voir.
Un peu comme a fait USF1.
Un peu comme a fait Toyota.
Oui.
À noter que Epsilon Euskadi aussi n'a pas perdu espoir. Alors, ils savent pas encore. Rachat d'une équipe, nouveau projet.
Le rachat d'une équipe, ça passerait soit par le rachat, je crois, de Toro Rosso, soit par Sauber, soit par Virgin. Et ils en viennent en fait à proposer une solution qui pourrait être la solution de Genie Capital. Ça veut dire ils apportent un fonds, en fait ils entrent dans le capital plus que de racheter. C'est vraiment prendre une participation majoritaire.
Alors ensuite, sur la deuxième marche du podium.
La deuxième marche, nous retrouvons un homme. Mmh. Un homme qui est seul contre tous. Puisque nous parlons de Hülkenberg, qui ne serait plus en honneur de sainteté chez Williams. Non pas, comme Williams ose le dire, en raison de ses performances, mais plutôt en raison de son argent, qui d'abord n'apporte pas vraiment, et ensuite de l'argent qu'il demande beaucoup, puisque...
Apparemment, il demande beaucoup d'argent.
Il est quand même managé par Willy Weber, ancien manager de Schumacher, qui a donc un certain standing. Hein. C'est sûr que quand vous roulez en Ferrari pendant des années, vous essayez de faire passer une Twingo pour au moins une Porsche.
Donc, et puis, n'est pas Kimi qui veut non plus.
Oui, voilà.
Donc peut-être remplacement par Maldonado.
D'ailleurs, ça se précise puisqu'on a Maldonado qui fera les essais jeunes, ce qui est très drôle quand on porte à Maldonado. Il fera les essais jeunes Williams à Abu Dhabi après le Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc ça semble quand même confirmer que Maldonado est bien parti pour aller chez Williams, qui ce sera une équipe sud-américaine donc l'année prochaine. La question, c'est quel va être l'avenir d'Hülkenberg, puisque on voit quand même mal Renault prendre Hülkenberg à la place de Petrov.
Oui, puis s'il a de grosses exigences au niveau des petites équipes, ça va coincer.
Voilà. Moi, honnêtement, je pense que pour Hülkenberg, la solution, ça serait de passer par un poste de second pilote, de troisième pilote, chez McLaren.
Ah, ouais.
Au départ de Button, il y aura un baquet libre, et ça sera un très bon baquet pour Hülkenberg.
Oui. On va passer à la première place, et on va parler d'un homme, ancien président, actuel premier ministre.
Futur président.
Sans doute futur président, car vive la démocratie russe. Nous allons parler de Vladimir Poutine, car bien évidemment, vous ne l'avez pas manqué. Ça a été signé, ça sera pour 2014, a priori.
Oui, ils ont signé pour 2014, mais maintenant dans les circuits, il y a une clause qui leur permet de, s'il le faut, reporter d'un an le début de leur Grand Prix, comme ça s'il y a des pépins. Et c'est surtout là, dans le cadre de Sochi, c'est qu'en 2014, il y aura les Jeux d'hiver.
Oui, ça va faire beaucoup déjà.
Ça va faire beaucoup, et donc pour adapter peut-être les installations au circuit, parce que le circuit devrait avoir lieu sur les installations olympiques, ça nécessitera peut-être du temps. Donc ils partent sur 2014, sachant qu'ils s'offrent une porte de sortie sans pénalité de la part de Bernie Ecclestone, ce qui est important, vers 2015, ce qui devrait devenir un standard d'ailleurs, avec l'exemple de la Corée. Je sais que la Corée, finalement, le Grand Prix a eu lieu en grande partie parce qu'il y avait des enjeux financiers avec Bernie Ecclestone qui étaient trop importants.
Donc 2014, contrat sur plusieurs années. Donc ça, quand on regarde, ça nous fait donc l'Inde l'an prochain en 2011, Austin en 2012, la Russie en 2014, le Grand Prix de Rome, c'est prévu pour quand déjà ?
2015, je crois.
2015, ça se bouscule au portillon.
Le Grand Prix de France en 2016.
Ouais, on dit déjà que la Turquie serait menacée, la Hongrie serait menacée, la Belgique.
Oui.
D'ailleurs, Ecclestone a tenu à rassurer en disant non, je ne veux pas la suppression du Grand Prix de Belgique. Donc, là encore, c'est toujours le même souci. 20 courses, il y en a qui rentrent, donc il y en a qui sortiront.
À moins de passer à 25.
Ouais, mais là, c'est encore un autre souci, parce que dans ce cas-là, faut réduire les week-ends de course.
Oui,
là,
mais justement, après le Grand Prix du Japon, il y a eu un débat qui est cherché à voir si c'était pas possible de réduire les week-ends, etc.
C'est vrai que c'est intéressant, parce qu'au fond, c'est vrai que le vendredi en général, on peut pas dire qu'il se passe...
Le vendredi après-midi, c'est intéressant. Vendredi matin, honnêtement, quand on regarde les essais, à part sur les nouveaux circuits et sur les gros circuits, on se fait chier, quoi. Il y a pas grand-chose à voir.
Le problème, c'est que si on supprime le vendredi, on supprime, même si c'est pas un tiers, parce qu'il y a moins de monde le vendredi, on supprime un peu de ressources pour les circuits.
Mais en fait, il s'agirait de faire le vendredi une séance d'essais l'après-midi et le matin réservé à tout ce qui est tout ce qui se fait le jeudi, en fait, les contrôles techniques et compagnie, et des opérations avec les fans. Donc, à la limite, si ça permet d'avoir
ça serait 2 jours et demi dans ce cas.
Voilà, ça serait 2 jours et demi, donc pourquoi pas.
On va passer aux hommes de l'actu. Alors, Dino, as-tu un homme de l'actu?
Ouais, et puis quel homme? Moi, j'avais envie de consacrer Luca Di Grassi comme homme de l'actu de Dino pour la dernière quinzaine. Pour la simple et bonne raison, c'est que sur son Twitter, Luca Di Grassi nous a révélé son nouveau casque. Tout le monde se rappelle du casque horriblement vert de Luca Di Grassi. Et il a décidé enfin, après 16 courses maintenant chez Virgin, il s'est enfin décidé à faire un casque qui ne jure pas avec la livrée de la Virgin et qui en ait les couleurs. Ce qui est très intéressant, c'est que le jour même, on apprend que du côté de chez Virgin, on cherche un coéquipier à Timo Glock. Et moi je dis voilà, c'est le mec qui fait déclaration d'amour à son équipe en changeant les couleurs de son casque, ce qui est quand même, ça l'est plus vraiment, mais à l'époque c'était quand même un signe important que de retoucher tes couleurs pour une équipe, etc. Le mec il le fait, ça se trouve il lui reste que 4 grands prix à faire, hein, donc.
Ouais. Et alors moi, comme homme de l'actu, je vais revenir sur une actu extrêmement récente parce que ça date d'aujourd'hui même. C'est Gerhard Berger. Qui lance un pavé dans la mare, comme on dit.
Et la danse des cannes.
Voilà. Donc, on a tous vu le magnifique crash de Mark Webber.
Ah, c'était beau. Ah, hein, c'était beau.
Qui a rebondi. Il a fait la boule de flipper.
Oui.
Et déjà, Rosberg avait dit, Mark Webber, il aurait quand même pu freiner. Ça aurait évité à la voiture de rebondir. Et justement, de me percuter, pour le coup.
Ouais.
Eh bien, Berger, il va plus loin.
Ouh.
Il dit que ce n'est pas un oubli. Car pour lui, Weber aurait délibérément essayé de jouer au bowling.
Oh là là.
Voilà, puisque faut pas oublier que quand il revient sur la piste, Alonso n'est pas très loin, et il a failli
C'est passé tout près.
C'est passé tout tout près. Et donc selon Berger, Weber aurait carrément en fait volontairement il n'aurait volontairement pas appuyé sur les freins, espérant entre guillemets faire un strike et à la limite quitte à perdre des points, si on peut éliminer un autre candidat, pourquoi pas
gagner quoi.
Et dire qu'il a quand même dirigé Toro Rosso, je veux dire, il a été quand même dans les jurons et tout. Ça sera difficile à prouver, je pense pas.
Mais c'est
vrai, ça ira pas forcément plus loin, mais s'il se rend compte, Weber et Berger.
Tu as lu en moi que dans un livre ouvert, gars.
Voilà, on va passer aux citations. Alors, as-tu une citation? Je sais que tu en as eu, mais je pose quand même une question.
T'en as un peu parlé, c'est une citation de Bernie Ecclestone à propos du Grand Prix de Belgique, qui a dit si le Grand Prix de Belgique disparaît, c'est que la Belgique l'aura voulu. Alors
c'est méchant ça.
C'est une manière de dire moi je veux bien qu'il reste, mais ce qu'il faut c'est que la Belgique se donne les moyens pour qu'il reste. Donc voilà, c'est tout l'art de Bernie et voilà. Et toi Shinji, quelle est ta phrase?
Citation. C'est une phrase toute simple qu'on a peut-être même tous dit un jour. Je rêve de F1. Phrase ô combien banale.
Oui.
Sauf quand elle est prononcée par Suzy Stoddart. Femme qui... Quoi? Pourquoi ça te fait rire?
Non, mais parce que je sais qui c'est. Donc c'est ce qui fait rire, parce que tout d'un coup, il y a 3 milliards de connexions nerveuses qui se mettent en route dans mon cerveau.
Suzy Stoddart qui ne fait pas partie de la famille de Paul Stoddart. C'est utile de le préciser.
Qui court en DTM.
En DTM, donc femme pilote. Ah. Donc Suzy Stoddart rêve de F1, et aimerait au moins avoir un test pour prouver, après tout, qu'elle peut avoir sa place en F1. Mais Suzy Stoddart, elle a un petit avantage.
Un petit.
Ce que tu dis qu'elle fait partie de l'équipe de Toto Wolff.
Bah disons que Toto Wolff, c'est l'un des préparateurs du DTM, je crois.
Voilà. Toto Wolff, de son vrai nom Christopher Wolff.
Oui.
Mais surnommé Toto.
Ah oui.
Et Toto Wolff, il a la particularité de posséder 10% de Williams.
Et peut-être bientôt 49.
Jusqu'à 49. Il est directeur non exécutif de Williams. Ça veut dire, je mets l'argent, on doit me dire ce qui se passe, mais je n'impose pas mes idées aux autres.
Voilà.
C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, où est la connexion? Ouais, bon, elle travaille dans son équipe, mais elle peut pas que travailler dans son équipe. C'est, comment on dit, la girlfriend de Toto Wolff. C'est une connexion qu'Hülkenberg et Maldonado n'auront jamais. Donc, c'est vrai que naturellement, on se dit, si elle devait faire un essai, pourquoi pas chez Williams? Ça, oui. C'est ce qui paraît très plus logique. Voilà.
Ça sera la première depuis Catherine Legueux en 2002,
ah,
je
oui.
crois.
Puis attention, elle veut un vrai test.
Oui.
Parce qu'elle dit, elle veut pas un truc genre ce qu'on a proposé à Danica Patrick. Elle avait refusé parce qu'elle estimait que c'était juste publicitaire. Donc voilà, c'était tout pour ma citation.
En même temps, une femme en Formule 1. Oui, pour cuire les pattes dans le paddock Ferrari, d'accord, mais au volant. Voilà, on vient de perdre Maël.
On passe à la course.
Ah non. Gigi.
Ah mais oui, c'est vrai.
La question actuelle.
Mon Dieu, je vais devoir y passer.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question actu qui est passée inaperçue. Youhou! Actu! Où es-tu?
Alors, je te dis, cette semaine, ça va pas être une question actu, à proprement parler. Ça va être un chiffre de l'actu.
Alors, est-ce que c'est lié à un Séoul Game Show? Même si ça n'existe pas.
Non. Et ce chiffre, c'est 400 000.
Bon, c'est pas déjà le nombre de spectateurs.
Ah non. Donc,
c'est un nombre de Coréens?
Non.
C'est un nombre de gens quand même, mais pas forcément de Corée.
Non.
400 000, c'est beaucoup quand même. Dans sa catégorie, c'est un gros chiffre, ou c'est normal 400 000 pour ce genre de choses?
Alors, c'est normal, mais à premier coup d'œil, quand on l'entend, ça semble pas beaucoup. On s'attend à plus, si tu veux.
C'est de l'argent?
C'est de l'argent.
Est-ce que c'est de la monnaie coréenne?
Non. Pour te dire, ça doit être de l'euro. Normalement, c'est de l'euro.
C'est de l'euro. Est-ce que non, ce sont pas des amendes, elles sont en dollars.
Non, c'est pas des amendes. Ni des noisettes. Désolé.
C'est lié à une équipe en particulier?
Oui.
C'est le prix de quelque chose de physique?
Oui.
C'est le prix d'un objet qu'on trouve sur les F1? Qui aurait pu, par exemple, être vendu aux enchères?
C'est le prix d'ailleurs, oui, effectivement, c'est le prix de quelque chose qui a été vendu aux enchères.
D'accord.
Tu te rapproches?
C'est pas un volant?
Non. C'est moins cher, un volant.
Non, mais aux enchères, ça peut monter haut.
Ouais.
C'est pas un moteur?
Non. Enfin, c'est pas un volant ni un moteur, mais dans le lot, il y a sans doute un volant et un moteur.
Attends, ça serait pas un truc que va vendre Lotus?
Non, c'est pas
Exos. C'est pas ça. Donc c'est pas c'est pas la F1 que fait
la Exos 125. Mais ça a bien 4 roues.
C'est une voiture ?
Oui. Enfin, c'est plus qu'une voiture, mais concrètement, c'est une voiture.
Ou attends, ça a pas été racheté par deux personnes ?
Oui.
C'est pas la plus grande nouvelle, meilleure nouvelle du sport auto français depuis un an ?
Oui, c'est la plus grande, meilleure nouvelle du sport auto, même mondial, honnêtement.
Ouais. Ah oui, 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 bah c'est bon, j'ai trouvé.
Alors c'est quoi,
j'ai donc c'était 400 000. Oui. Donc oui, ça devait être une triste date puisque c'était le jour où étaient vendus les restes.
Ouais.
Enfin, pas les restes parce que, voilà, les actifs de Pescarolo Sport.
Ouais. La prestigieuse équipe d'endurance.
Voilà, Pescarolo Sport.
La meilleure équipe historique, la meilleure équipe privée.
Ça aurait pu être une journée dramatique pour le sport auto français. En fait, tout a été racheté parce que en plus ils ont réussi à tout racheter. Donc les deux personnes les ont achetés. Ils ont pris les clés des ateliers.
Ouais.
Et donc malheureusement il y avait Henri Pescarolo parce que c'était l'avant de ses actifs.
Qui venait un peu contre son gré, hein, vraiment pour dire au revoir à son écurie.
Et la première chose qu'ils ont fait, c'est remettre les clés de l'atelier à Henri Pescarolo. Et donc l'an prochain, il y aura Pescarolo Team, puisque Pescarolo Sport c'est fini, il y aura Pescarolo Team au Mans.
Ouais.
Puisqu'il va récupérer en fait les deux LMP1, c'est ça, hein,
ouais,
c'est ça, les deux LMP1, il va pouvoir courir l'an prochain. Et donc Henri Pescarolo ne sera pas commentateur au 24 heures du Mans l'an prochain.
C'est triste cette année, hein, vraiment.
Parce qu'il sera sur la piste. Et c'est vrai que oui, quand on y pense, 400 000, oui, ça doit être en euros.
C'est pas cher
payé. Parce que rien qu'il MP1, voilà quoi. On va passer au qualif. Donc, commençons par notre place du con. Alors, j'ai envie de dire, il y a deux prétendants. Il y a celui qui a été déclassé et celui qui a été, j'ai envie de dire, la place du con naturelle.
Oui, mais vu que celui qui a été déclassé, il a vraiment été volé sur ce coup-là. Donc honnêtement, il s'est fait arnaquer Petrov, hein, sur ce coup-là. Ça...
Ouais.
Soit il mérite une pénalité, mais dans ce cas-là, c'est pas le seul à devoir prendre une pénalité. Soit il mérite pas de pénalité, et donc c'est normal que les autres n'en prennent pas.
Oui. Et donc, faut dire, la place du con cette semaine, c'était pour Liudzi.
Encore.
Oui,
il l'a souvent eu cette saison, la place du con.
Souvent, oui, Liudzi, Buemi, Alguer Suarez, c'est souvent une Force India ou une Toro Rosso, hein, cette année. Faut bien le dire. Et puis parfois un peu les Sauber. Donc pas grand-chose à dire sur Liudzi.
Même sur la course, j'ai rien à voir à dire sur Liudzi, alors.
Allons plutôt de l'autre côté de la grille, en tête, parce que là, faut avouer, on a eu une fin de Q3 quand même.
J'étais sûr qu'Alonso était en pôle. Je voyais pas comment il pouvait se faire dégommer, et là, les deux Red Bull arrivent.
Oui, parce que, tu fais bien de dire les deux Red Bull, parce que, on dit, ouais, Vettel a fait un truc énorme.
Non, les
mais
deux.
Mais Weber, quand même, qui est juste derrière, il a pas la pôle, mais il fait aussi un tour gigantesque.
Bon, Weber, il a un moteur neuf aussi. Le fameux moteur neuf.
Est-il encore en état, ça, c'est une autre question.
D'ailleurs, pendant autocritique, Jean-Louis Moncey, qu'on n'a pas pu voir ce week-end, a dit que c'était le plus beau tour de qualif qu'il avait vu de toute sa carrière.
Un des plus beaux.
On va dire le plus beau, je dis.
Non, c'était, c'est vrai qu'on se disait que c'était bon pour Alonso, et ils ont sorti, c'est difficile quand on n'est pas fan de F1 de faire la différence entre un bon tour et un truc énorme. C'est vrai, quand t'as pas l'œil, enfin, je veux pas dire qu'on a l'œil expert, mais voilà, c'est du ressenti pur. Et c'est exactement ça. Je suppose que si tu montrais l'image à quelqu'un qui suit pas forcément la F1, je dirais, il est allé vite, il a fini premier.
Ouais, voilà, normal.
Et alors que, voilà, nous, on a ressenti, on s'est dit, wouah!
Mais d'ailleurs, comment ça s'appelle, Malbranck, il était déchaîné, quoi. C'était terrible.
Quoi. Oh mon dieu.
Mais moi, c'est une qualité vraiment que j'aime chez Vettel. On l'avait beaucoup vu l'an dernier, et du fait de la domination cette année en qualification de la Red Bull, on l'a moins vu. Mais c'est vrai que l'an dernier, on l'avait vu parfois sortir, faire un tour.
Ouais,
et
souvent,
le tour, c'était le tour, quoi. C'était le tour qu'il fallait faire.
Donc c'était là. 14e pole position pour Vettel, quand même.
Ils ont le record.
Ils les collectionnent. Hein. 19e pour Red Bull. C'est la 174e pole position pour le moteur Renault.
Oui.
Quand même, hein, ce moteur Renault qui est censé être moins rapide que les autres.
Oui, c'est vrai.
Et a une moyenne de 211,703 km/h. On est bien loin de la moyenne de course, quand même. qui est une des moyennes de course les plus pitoyables au monde, tout ça parce qu'ils ont compté le temps du drapeau rouge. Mais bon, c'est... la moyenne de course, elle est à 110,185 km/h.
C'est pire que Monaco.
Voilà. Alors, écoute, le quatrième tour dure 45 minutes. C'est débile.
Ah. Oui.
Voilà. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire sur ces qualifs?
Bah, la petite déception quand même des McLaren, parce qu'on s'attendait quand même à ce que les McLaren soient meilleurs que ça, surtout que les trois lignes droites.
Hamilton fait 4 quand même.
Oui, mais il fait que 4.
On peut noter Rosberg 5e.
Ouais.
Ça, c'était pas mal. Voilà. On passe à la course.
Oui.
On passe au top 10. Un vrai top 10. Faut dire, hein, pour une course de 2h48. Et à noter que cette semaine, nous avons eu, alors là, c'est, pourquoi tu fais comme ça?
Ça, je crains des ex-échos.
Non, y en a pas. Y en a pas du tout cette semaine.
Ah, d'accord, y en a pas du tout. Ah.
Enfin, si, il y a un ex-écho, mais on y reviendra.
Oh non, oh non, mais pas lui. Oh non, oh non.
Ah non.
Celui, il va être... lui, il peut rentrer dans le classement.
À noter que nous avons eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 auditeurs.
Avec un invité de marque.
J'ai envie de dire un guest.
Qui a rattrapé les 5 ou 6 SAV qu'il avait de retard.
Puisque outre Fab007, Sato Kamikaze, Buchor, Bilo, Maël, Steph Cord, Globen et Iceman Air, j'ai envie de dire nos tauliers.
Oui. Parce
que nous avons eu le top 10 d'Enzo.
On a gagné un auditeur.
Et donc, on va commencer comme d'habitude par ceux qui ont été cités mais qui ne font pas partie du top 10.
Oui.
Et nous allons commencer par un pilote McLaren.
Oh.
Et en même temps, c'est normal qu'il ait pas, qu'il soit pas rentré dans le top 10, puisqu'il y a qu'un blaireau qui a noté Button cette semaine. Un dino.
Ah, non, mais je suis pas le seul, il y a Globen, qui l'a mis 10e aussi.
C'est vrai. Mais lui, au moins, il l'a pas mis en ex-aequo.
Il a dit, c'est foutu pour lui, le coup des intermédiaires, c'est pas une potion magique. Oui, je sais, Astérix vient de passer sur TF1.
Oui, c'était dimanche.
Moi, je l'ai mis 10e, pour une simple et bonne raison, c'est qu'à un moment donné, il a fait d'abord, faut pas non plus regarder sa course, on regarde ses performances à lui. Il a pas été bon sur la course. Il a quand même été foutu dehors par Sutil, je crois. Ce qui lui a fait perdre des places, et il a eu du mal à les rattraper. Et puis, à un moment donné, il est parti en tête à queue, et il s'est magnifiquement récupéré.
Oui, c'est vrai, ouais.
J'ai tellement éprouvé le plaisir à le voir se récupérer, partir en... J'avais l'impression de voir un danseur de ballet. Je me suis dit, voilà, je vais lui donner un point quand même, parce que je l'aime bien et que là pour le coup c'est pas la chance, c'est vraiment le fait du pilote. Il s'est très bien arrêté, il a très bien récupéré la voiture, c'était magnifique.
Et pourtant tu as donné un ex-aequo, c'est-à-dire que tu as mis un autre pilote à un point. Sors ta blague.
Mais j'ai pas de blague, vraiment, je le pense.
Tu penses vraiment que Luca Di Grassi mérite son point?
Mais à fond. Non mais attends, tu te rends pas compte de la performance de ce mec ce week-end? Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. On revient au Grand Prix du Japon.
Ouais.
Rappelons-le, le Grand Prix du Japon s'est déroulé sur le sec.
Ouais.
Et ce mec-là, sur le sec,
ouais,
il a même pas réussi à faire 2 km.
Oui, c'est vrai. Hein.
Donc là, on arrive à Séoul.
Oui.
On voit qu'il pleut.
Oui.
On se dit, il va se tanker au premier virage. Eh ben non. Il a réussi à aller tout seul sur la grille. Il a réussi à tenir, comme tout le monde, les 10 ou 12 tours qu'il y a eu sous safety car. Il a attendu que la course soit repartie avant de se foutre dans le décor. La manière dont elle a réussi à progresser depuis le Japon, c'est formidable. Moi, je vous dis là, on tient sans doute, je m'aventure rarement, mais on tient sans doute un champion. De Formule 3 ou GP3, mais on tient un champion.
Tout ça pour ça.
Oui.
T'as même pas donné de points à Bernd Mélander. Alors ouais, pourtant, il méritait faire... hein, cette semaine. Hein.
je vais donner des points. Je vais donner un point la dernière fois. Là, si je mettais Bernd Mélander, il était sur le podium, donc non.
Peut noter aussi Petrov, que tu as cité.
Bah ouais, je l'ai mis 7e.
En même temps, il y a que Maël qui lui a mis un point.
Maël l'a mis 10e. Mais moi, je l'ai mis, je voulais même vous donner une information, je n'ai pas mis Kubica. D'abord parce que je trouve que Petrov, il a quand même fait une bonne course. Il a fait une erreur, moi je pense quand même qu'il a été bien aidé par la ligne blanche d'entrée des stands, mais il a fait une erreur. Maintenant, personnellement, je préfère quelqu'un qui fait une erreur sur la piste que quelqu'un qui fait une erreur dans les stands. On se rappelle déjà, je crois que c'est en Belgique, que Kubica avait foiré son entrée dans les stands. Là, en Corée, Kubica, il a foiré sa sortie dans les stands. Puisqu'il est reparti avant même que l'homme à la sucette lève sa sucette.
Pas, c'était pas la faute de l'homme à la sucette.
Ah non,
hein.
Non, là, c'est la faute de Robert.
C'était la faute de Robert.
Mais c'est, voilà, donc j'avais envie plutôt de souligner, parce que je me doutais bien qu'il ne marquerait pas de points. Mais on peut pas dire non plus que la course de Petrov a été mauvaise. Voilà, il a fait une erreur sous la pluie.
Un endroit qu'on sait
voilà. Et honnêtement, qui n'a pas fait d'erreur ce week-end? Tout le monde a fait des erreurs. Et quitte à faire des erreurs, bah, je préfère quand elles sont faites en piste, plutôt que de faire une erreur à la con dans le stand, quoi.
Alors, à noter, parmi les votes auditeurs, il y a aussi plein d'autres pilotes qui ont été cités. Un petit point donné par Enzo à Mark Webber. Il a été le seul.
Oui.
Et pourtant, pourtant, je veux dire, il y a des pilotes qui ont fait des courses qui n'étaient pas forcément beaucoup plus longues que lui, qui ont eu plus de points.
Oui. Enzo qui a écrit, bien malgré lui, son erreur provoque un vrai chamboulement dans le classement et nous permettra d'avoir un final somptueux.
C'est vrai. On peut noter aussi Hülkenberg, qui a été noté par Sato Kamikaze, par Bilot et par Globen.
Alors on a Bilot qui l'a mis 9e en nous disant très bon sur cette course malgré la pression du baquet non confirmé pour 2011, mais dommage que les pneus n'aient pas tenu. On a Globen qui l'a mis 8e qui nous dit bon ok j'assume, c'est une obstruction à Lewis Hamilton, il faut bien que quelqu'un le descende, vous saurez pourquoi. Et on a Sato Kamikaze qui l'a mis 7e et qui nous dit il a fait une très jolie course avant de ne plus avoir de pneus, dommage pour lui. Je suis assez d'accord.
On peut noter que Sutil a eu 2 points, une 9e place de la part d'Enzo. Qui a apprécié la course de Sutil.
Enzo qui dit très brouillon sur la piste mais a bien animé la course.
Oui, c'est peu de le dire.
Voilà, non mais honnêtement, il a fait des très beaux dépassements.
Ouais.
Mais en même temps, pour un dépassement qu'il a bien fait, il a fait 2 bouses quoi. Donc donc il a fait 2-3 dépassements, bah il a fait 4-5 bouses.
J'ai noté aussi que Globen avait donné des points à Kovalainen. Et à noter, Steph Corr, qui a donné un point à Yamamoto, mais pour une raison quand même très justifiée.
Oui, en effet, Steph Corr qui a une bonne raison, puisqu'il nous explique, il a fini la course, et ayant parié avec mon frère qu'il ne la finirait pas, il m'a coûté un repas au restaurant, mais pour une fois que mon frère fait un pronostic juste en Formule 1, cela méritait bien une place dans mon top 10.
Voilà, on va passer au top 10. À noter quand même qu'au final, il y a 18 pilotes qui ont été cités.
Oui, presque tout plateau.
Sur 24, c'est quand même pas mal. Et donc, comme je disais pour Mark Webber, il y a des pilotes qui finalement ont pas forcément fait une course beaucoup plus longue, mais qui ont eu des points.
Ah oui.
Et oui.
Bah je sais qui c'est alors.
Bah forcément, vous doutez quand même un peu qui je parle. Puisqu'à la 10e place, Nico Rosberg récupère un point, ce qui au niveau du ratio quand même kilomètres parcourus points est quand même pas mal. Hein.
Oui, mais il a été mis par beaucoup de personnes, il a été mis par 5 personnes dont moi.
Oui, c'est vrai.
Tu l'as mis toi, Shinji?
Oui, je lui ai donné un point, justement.
Ah bah, en tout cas, il a été mis par 6 personnes, alors.
J'ai donné un point à 10e place, tu l'as mis à la 8e place, et les auditeurs, sur leur moyenne, l'ont mis à la 9e.
Alors, on a Iceman Air, par exemple, qui l'a mis 10e, pour sa qualification, son dépassement sur Hamilton, et parce qu'il aurait sûrement pu faire quelque chose de très bien. Et on a Fab, qui nous l'a mis aussi 10e, même quand il a un carton avec le leader du championnat, on le voit en voiture que 10 secondes, en revanche, son temps d'exposition en scooter est plus flatteur, peut-être une idée de reconversion. Et on a Enzo et Globen qui l'ont mis 6e, Enzo qui nous dit disparu trop vite de la course après un superbe dépassement sur Lewis, aurait peut-être pu disputer la victoire à Alonso, tandis que Globen nous dit on sentait qu'il pouvait faire une bonne course à la Rosberg, mais le kangourou en a décidé autrement.
C'est vrai que sur le peu qu'on a vu, on a senti qu'il y avait eu du potentiel quand même pour faire quelque chose, et bon, malheureusement, ça s'est terminé prématurément.
Non, et puis en plus, c'est vrai qu'avec les performances de Schumacher, qu'on a pu entrevoir de Schumacher sur la course, on peut pas s'empêcher de se dire que Rosberg aurait pu faire une très belle course.
Et justement, au beau milieu des leaders du championnat, il avait une belle carte à jouer.
Mais vu la manière dont il a disposé d'Hamilton qui semblait pas trop pouvoir remonter sur lui dès le démarrage, ça promettait pas mal.
Passe à la 9e place.
Oh oui, j'ai dit.
Avec un pilote qu'on aime beaucoup, faut le dire. Même
Mireille
si on
Cullen.
Est... que j'aime beaucoup, sinon j'aurais...
Non mais moi aussi, je l'aime. Je suis juste un peu plus lucide que toi sur lui.
On va parler de Rubens Barrichello.
Rubens, ça fait comme Roubignol. C'est terrible.
Tu remarqueras, parce que pendant la course, il nous a dit, oui, vous allez voir, Barrichello va nous envoyer un Twitter, je sais pas. Et il n'en a pas envoyé, il me semble
non,
pas.
Non, mais j'étais sûr qu'il nous enverrait, tellement Twitter, j'étais sûr qu'il nous enverrait un petit tweet depuis la grille de départ en disant, oh, c'est mouillé ici, ou un truc dans le genre, tu vois.
Donc, Barrichello, que j'ai mis 8e, que les auditeurs ont mis 8e, qu'ont dit les auditeurs sur Barrichello?
Alors, ils sont nombreux les auditeurs à avoir...
Ils sont nombreux, ouais.
Et même moi, j'ai rien mis sur Barrichello. Ah la vache. Alors on a celui qui l'a mieux placé, c'est Globen, qui l'a mis cinquième en disant bon pied, bon œil. Mmh. Ensuite on a Steph Kerr et Iceman Air qui l'ont mis septième. Steph Kerr qui nous dit je n'étais pas un fan de ce pilote lorsqu'il portait la combinaison rouge. Cela est sans doute dû à mon allergie chronique et irréversible envers les chevaux cabrés. Mais depuis le début de saison, je me prends d'une véritable affection pour ce pilote qui j'espère sera encore présent quelques saisons. Une course où il donne encore la leçon à son coéquipier. Tandis que Iceman Air nous dit très belle course en vieux briscard, il a su éviter les pièges. Dommage que ces pneus n'aient pas tenu. Et puis on a Fab007, Bûcheur et Bilot qui l'ont mis 8e. Fab qui nous dit définitivement présent le Pauliste. Bilot qui nous dit toujours dans le coup pour permettre à son équipe de se rapprocher de Force India. Dommage que la Williams ait usé ses pneus plus vite que les autres. Et enfin Bûcheur qui nous dit certainement grâce à son expérience, il a évité les pièges.
Sur la fin de la course, ils avaient à peu près tous des pneus qui partaient en lambeaux.
Oui, dire. Voilà. Disons que c'est vrai que c'est du côté de Williams que le signal d'alarme a retenti, mais c'est aussi parce que ça a été parmi les premiers, je crois, à prendre le pari justement des intermédiaires. Donc voilà.
À la 8e place, c'est un peu un de nos chouchous au SAV. Mais oui, c'est un de nos chouchous.
Je crains le pire.
Mais non, en plus toi, tu l'as très bien mis. Ah enfin, très bien.
Je l'ai bien mis. Oui, je l'ai bien.
T'as bien mis, oui.
Je pense même que c'est moi qui l'ai mieux mis.
Oui, parce que les auditeurs l'ont mis 10e, moi je l'ai mis 9e. J'étais moins impressionné qu'au Japon aussi. Et c'est vrai, Dino, tu l'as mis 6e.
Moi, j'ai apprécié justement que après la course très offensive du Japon, et alors qu'on était sous la pluie et c'est souvent l'occasion d'attaques un peu suicidaires, j'ai apprécié de voir Kobayashi faire une course solide. Une course d'un pilote de Formule 1, quoi, capable d'attaquer au Japon, capable de gérer sa course un peu plus en Corée. Moi, j'ai vraiment beaucoup adoré et j'ai un peu surnoté Kobayashi pour cette raison-là, parce que vraiment, il a montré deux profils très intéressants et selon moi vitaux quand on veut faire de la F1.
Avec une voiture qui a fini marron, hein, parce que forcément le blanc avec
mais
la pousse.
Mais ouais, toutes les voitures ont fini marron.
Non, mais elles étaient toutes marron, on est bien d'accord. Oui. Mais eux, comme à la base, elles étaient blanches.
Oui. Hein? Ah bah là...
T'es d'accord que sur une HRT qui est un peu marron chocolat...
Tu veux dire que les Sauber avaient une vraie livrée pour une fois?
Ouais, si on peut appeler ça une livrée.
Ah bah c'est déjà mieux que ce qu'elles ont maintenant.
Tu vois.
Disons que avant elles avaient une livrée de merde, maintenant elles ont la couleur.
Et puis bah voilà, forcément une voiture blanche... Enfin le blanc, on dit que c'est salissant, et oui, c'est vrai.
À noter que depuis dimanche, allez savoir pourquoi, en fond d'écran sur mon ordinateur, j'ai une magnifique photo que vous avez sans doute dû voir. La photo vue de l'aileron avant de la Red Bull de Mark Webber, toute boueuse, et je trouve cette photo absolument splendide. Au moins un truc de beau à voir en Corée.
Faut aimer les montagnes et les champs.
Oui,
j'ai dit les champs, j'ai pas dit les chantiers. Faut aimer la mer, front de mer et tout.
C'est quand même très gris en fait la Corée. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu un moment le soleil.
Et là, oui, c'est vrai que non, mais même quand il fait beau, en fait, comme ils disent, le temps est laiteux. C'est pour dire, il y a des nuages quoi. À la 7e place.
Et les auditeurs.
Ah oui, c'est vrai, on n'a pas dit pour les auditeurs. Surtout que là encore, il y a 1, 2, 3, 5 auditeurs qui ont cité Kobayashi.
Ou 6 même. Mais Maëlle n'a pas fait le commentaire.
Ah, c'est pour ça.
Elle a mis 8e.
Ah oui, c'est pour ça. Mais Maëlle, elle met jamais de commentaires.
Ouais. Elle est pas bavarde, Maëlle. C'est une femme, elle est intelligente. Elle en dit jamais trop, elle dit juste ce qu'il faut.
Donc, Bilot l'a mis 10e. Très sage cette fois, mais toujours efficace. Tout comme Hetfeld. Mais il n'y a plus de place dans mon classement. Bûcheur l'a mis 9e. Encore une fois dans les points, ce pilote me surprend de plus en plus par son talent. Ouais, mais c'est notre chouchou.
Ouais.
Ensuite, nous avons Steph Kerr qui l'a aussi mis 9e. En le plaçant dans mon top 10, je tiens à féliciter les deux Sauber qui finissent dans les points. Il a raté ses qualifs, mais compense par une course honnête où il profite des aléas. Là, par contre, il n'y a pas de question de resto ou de frère.
Non, voilà, non. Donc, ensuite, on a Sato Kamikaze qui l'a mis 9e. Ah. Moins flamboyant qu'à Suzuka, bien sûr, mais il a fait une bonne course. À noter que lui et Hetfeld font partie des premiers à avoir chaussé les intermédiaires. Tandis que Fab007 nous met 7e. Une bonne place, encore une fois, et de belles luttes, encore une fois. Voilà pour l'avis des auditeurs.
Ok. On va passer à la 7e place.
Tada!
Avec un autre Monsieur K. Mais des Monsieur K, il n'y en a pas non plus 40 000. Oui. C'est Bob.
Kubica l'invisible.
Voilà.
Non.
C'est méchant. C'est rare en plus. En général, on le voit plus que ça, Robert.
Non, mais je l'ai vu. Mais bref, j'ai retenu que son erreur dans les stands.
Oui. Donc, les auditeurs et moi-même, on l'a mis 7e. Bon, c'est vrai qu'il y a cette erreur dans les stands, ok. Mais sinon, il fait une bonne course de façon générale. Il fait une bonne fin de course, vu que les auditeurs aussi l'avaient remarqué. En même temps, c'est qu'une septième place. Hein,
Ouais, mais il y en a qui l'ont mis cinquième, par exemple.
Qui l'a mis cinquième?
Et Steph Corr, par exemple, il l'a mis cinquième. Maël, elle l'a mis cinquième.
Oui, mais c'est Steph Corr.
Oui, mais Maël, quand même.
Mais Maël, de toute façon, on sait pas ce qu'elle en pense.
Oui, c'est vrai.
Faut quand même saluer quand même les gars de l'équipe, parce qu'en règle générale, quand une voiture part un peu trop vite, c'est souvent, enfin, c'est pas souvent leur faute, mais c'est peut-être une sucette un peu vite trop levée, des choses comme
vivante.
Ça. Voilà. Et là, non, c'est lui. Non. Là, c'est clair, c'est lui. Mais quand même, grâce à Sucette Man, il a évité de percuter une Force India.
Bah, un peu comme, c'était où qu'il y avait eu un incident, même que la roue de la Mercedes avait volé.
Ah oui.
C'est pas en Hongrie.
Je me demande. En plus, il y a pas si longtemps, je m'en rappelle.
Oui, c'est en Hongrie parce qu'il y avait une safety car et que Vettel s'était endormi derrière. Et je me demande si c'est pas Kubica, justement, qui avait été, pour le coup, relâché par Sucette Man et, qui avait failli copuler avec, copulé avec Sutil.
Oui, et qu'on avait, reproché le fait à Renault, qui avait eu la même sanction que Mercedes, alors qu'en fait, le pneu venait de chez Mercedes et qu'on pouvait se demander si, en fait, le relâchement de Sucette, c'était pas lié au fait qu'il y avait un pneu qui volait au beau milieu des stands. Je vais pas te demander des choses sur Kubica, puisque t'as pas mis de points, que visiblement tu l'as pas vu. En tout cas, pas assez pour lui donner des points.
Mais je sais, je me rappelle à un moment donné, je l'ai vu derrière Petrov. Donc je me suis dit, oh Petrov, il est bon aujourd'hui. Mais je pense qu'ils étaient sur la stratégie décalée.
T'es sûr que tu louchais pas?
Non, je te jure. Il y avait Petrov, il y avait un mec, je crois que c'était Hülkenberg, et derrière il y avait Kubica.
C'est-à-dire que Petrov était devant Kubica.
Oui, mais ça arrive.
Ça arrive.
Bah oui.
C'est arrivé.
Mais moi, j'adhère pas à Kubica. Enfin, je suis désolé, mais ce pilote, il passe pas. Il est fadoué. Ah, tu dis, reçu mon SMS.
Oui. Une grande blague de Mr. Black, c'est tout.
J'attendais le moment où tu la regarderais, ta blague. Pour tout vous raconter.
Donc, dans la partie, nous racontons notre vie. Hein.
On a eu un petit problème technique. Il y a eu à un moment donné où ça s'est déconnecté et Shinji m'a envoyé un SMS pour me demander
est-ce que t'es déco.
Voilà, est-ce que t'es déco. Et moi j'ai répondu quoi, Shinji?
Oui, je suis plutôt déco, mais aussi cuisine. La 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 la. C'est même pas la fête de la blague, c'est la fête du slip ce soir.
Et je peux vous dire, ça fait un quart d'heure que j'attends qu'il le lise. Mais moi je sais plus ce que tu dis sur Kubica. Mais non, mais c'est vrai que c'est un pilote que moi ça passe pas, voilà. C'est pas le genre de pilote que j'aime. Même s'il fait du très bon boulot chez Renault.
On va passer
au commentaire des auditeurs.
Ah, on l'a pas dit pour Kubica. Ah non, on a dit Kobayashi. Voilà. Non mais quand il y a deux pilotes comme ça avec un K, donc oui, en gros, quand il y a les deux à la suite, je sais pas pourquoi je zappe. T'imagines s'il y a Kubica, Kovalainen et Kobayashi à la suite.
Il y a trop peu de chance quand même. Donc du côté des auditeurs, beaucoup de gens l'ont placé. On a Steph Corr, donc il a mis cinquième, tout comme Maël. Steph Corr qui nous dit une course correcte de sa part et une belle fin de course où l'usure des pneus de ses concurrents l'ont aidé. Mais comme toujours, il fut à l'attaque et gagna des places en fin de course sur les beaux dépassements. On a Sato Kamikaze qui l'a mis sixième. Il a profité des erreurs des mecs devant lui, mais lui n'en a pas fait. Nous avons ensuite Buchor qui l'a mis septième, tout comme Bilot. Bilot qui nous dit bonne course, alors que Buchor nous dit belle place à l'arrivée, malgré une voiture qui ne semblait pas au mieux sur ce circuit. Et enfin, Iceman et Renzo l'ont mis huitième. Iceman qui nous dit course discrète, mais le résultat est là. Il a bien profité des problèmes de pneus de ses adversaires. Tandis qu'Enzo nous dit belle fin de course, mais trop chaud bouillant dans les stands. Ce grand gamin a voulu croquer la sucette de son mécano.
Toi, il y a des images qui viennent de passer dans la tête. J'ai l'impression.
Non, on va quand même pas me faire croire qu'Enzo il l'a pas fait exprès, quoi. Je connais suffisamment Enzo pour savoir que ce commentaire a des gros sous-entendus. Enzo, avoue, je veux que tu mettes un commentaire sur le site pour reconnaître que là, c'est pas moi qui me fais des idées. Ce grand gamin a voulu croquer la sucette que son mécano a cité devant lui.
Et là, on pense tous à un film porno.
Ouh.
Y a pas à dire, hein, c'est un vrai sport de mec.
Oui, non mais oui. Donc, sixième, je suis dit.
C'est bon, les auditeurs n'ont pas fait d'autres commentaires.
Non, je crois que j'ai... Oui, j'avais gardé Enzo pour la fin. Sans... C'est bon. Sans me souvenir son commentaire, mais finalement, c'était bien tombé, donc...
Donc, à la sixième place, le pilote Force India, Tonio, c'est plus facile à dire que dans machin, Yudi.
Putain, il marque des points.
Eh oui, il marque des points. Ah oui, c'est vrai que moi et les auditeurs, on l'a mis sixième, et toi, tu ne l'as mis que neuvième. Mais tu as peut-être confondu avec Sutil.
Et encore, j'ai failli mettre Sutil à la place. Mais en fait, c'est terrible avec Yudi, c'est que quand j'ai vu le classement à la fin de la course pour faire le classement du Fantasy, j'ai vu Yudi, je fais non, ils ont fait une boulette, alors je suis allé voir sur le site officiel de la F1, je suis retombé sur Yudi. Je fais non, attends, il y a une connerie là, c'est pas possible.
Yudi qui est parti 17 et qui finit 6.
En faisant de la merde. Parce il a fait un peu comme Sutil, il a pas mal vendangé à un moment donné.
Ah écoute, il a au moins gagné 2 places, puisqu'il y a eu 9 abandons.
Mais en fait, alors, c'est seulement en fait quand j'ai reçu les mails des auditeurs dans les top 10, j'ai vu tout le monde qui le mettait. Je me suis dit, attends, Ludi, c'est pas normal quand même. Donc je me suis dit, fais le lâche, tu lui donnes des points, tu feras genre. Mais comme je suis trop honnête, je peux pas faire genre. Je ne l'ai pas vu.
Il fait quand même au final une grosse remontée, quoi. Ça donne des points au-delà de l'assemblée, vous savez.
Oui, c'est vrai.
Et puis, il a fait un peu moins de la merde quand même que Sutil.
Mais en fait, je pense vraiment que moi Sutil, ce qui m'a retenu, c'est vraiment ses dépassements. Il a fait des beaux dépassements, oui. Même s'il y a eu beaucoup de déchets. Le truc, c'est que Ludi, il y a peut-être eu moins de déchets que dans Sutil, mais je l'ai moins vu sur la piste, donc ça m'a moins marqué.
Plus discret. Voilà. Oui. En même temps, ça a été efficace. Qu'ont dit les auditeurs de Ludi?
Oh, plein de choses, mais bon, je pense que comme c'est Ludi, je pense qu'on peut passer. Enfin, vraiment, je pense.
Si tu veux.
Mais non. Toi, tu me laisses faire, toi. Donc, Sato Kamikaze et Steph Curl ont mis 8e. Sato Kamikaze nous dit, il s'est défait de Kobayashi à la Kobayashi. Jolie course de sa part. J'ai pas vu le dépassement sur Kobayashi, enfin, c'est pas grave. Steph Curl, qui nous l'a mis 8e. Une course compliquée pour les Force India et un pilotage un peu dans l'excès, mais une place méritée par l'envie dégagée durant la course. C'est sûr qu'ils ont eu envie. Bûcher, Iceman Air et Fab007 qui l'ont mis 6e chacun. Fab qui nous dit une belle 6e place. Bûcher qui nous dit belle remontée dans des conditions difficiles. Tandis qu'Iceman nous dit ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une Force India aussi bien classée, surtout la sienne. Et puis au moins lui a couru à peu près proprement. Tandis que Bilo et Enzo l'ont mis 5e. Bilo qui nous dit encore une fois celui qui est à la place du con le samedi redevient intelligent le dimanche. L'Italien a effectué une belle remontée en dépassant les perfs de sa voiture. Et attention Enzo. Non, ça va, il n'y a pas de risque, qui nous dit « Superbe remontée et très beau résultat ». Maintenant, je me méfie sur les commentaires d'Enzo, je relis avant.
Oh. Alors, on va passer à la 5e place. C'est le pilote Ferrari. Vous vous en doutez, c'est pas Fernando Alonso.
Filippo.
C'est Filippo, qui fait une bonne course. C'est utile de le dire, fait une bonne course.
Mais qui, une nouvelle fois, ne sert à rien.
Ah non, il ne prend des points à personne, donc...
Vivement le Brésil.
Oui, ce qu'il y a qu'au Brésil qui est efficace.
Oui, façon. Voilà. Que normalement en Turquie aussi, puis il a servi à pas grand chose en Turquie, donc
Non. Ça c'est, il y a du progrès. Déjà il fait de bonnes courses. Maintenant il faut qu'il fasse de bonnes courses, mais utiles pour son équipe.
Ouais.
Alors au niveau des classements, donc je l'ai mis 5e comme les auditeurs, et toi tu l'as carrément mis 4e.
Carrément, c'est bon. Ouais. On passe de 5e à 4, c'est sérieux. Genre je l'ai mis en pôle.
Bon d'accord, c'est parce que t'as mis. Enfin voilà, on verra.
Non, honnêtement, non, je l'ai mis parce que c'est pas vraiment sa surface la pluie. On se rappelle de Silverstone en 2007, 2008, je sais plus.
Ah mais tu sais, je finis par me méfier par les oui, la pluie c'est sa surface, qu'il y a plein de pilotes
où ils font
une
la surface.
Voilà, ils font une bonne course, on leur dit ouais, ils sont super bons sous la pluie. Et puis 3 mois plus tard, il y a une autre course et c'est des vraies merdes.
Voilà, il a fait une belle course, il a montré des choses, pas autant que ce qu'il fallait. Il reste tout de même encore inutile, il reste tout de même encore à distance d'Alonso. Mais j'ai bien aimé son discours. un peu plus corporate par rapport à Ferrari.
Il commence peut-être à digérer.
On le sait corporate, mais c'est vrai qu'il était plutôt taciturne et plutôt et ça se comprend, plutôt aigri ces derniers temps. Et là, effectivement, il parle de travailler pour Alonso. Il avait l'air enthousiaste de partager le bonheur de tout le monde sur le podium. Non, c'est moi, voilà, il m'a fait plaisir. Pour un numéro 2, c'est bien.
C'est vrai, c'est un numéro 2.
Et toi, Shinji, qu'en as-tu pensé?
Non, mais voilà, je l'ai mis 5e, derrière d'autres, faut bien le dire. Mais il fait une bonne course. Comme je l'ai dit, voilà, c'est déjà important qu'il arrive à faire de bonnes courses. Ça évite aussi que toutes les semaines, on ait de nouveau des rumeurs. Ah, dites, si Massa, il partait de Ferrari. Bon, là, ouais. Voilà, qu'il soit déjà un bon numéro 2. Il pourrait rester des années chez Ferrari.
Même si, alors, il y a quelques semaines, on en a pas parlé au Japon, je crois, mais je crois que c'est avant le Japon, où il aurait dit à un journaliste, il a nié après, mais il aurait dit qu'il souhaitait pas être le nouveau Barrichello. Et d'ailleurs, il a dit, non, mais j'ai pas dit ça, jamais je dirais ça de Rubens, c'est mon copain Rubens, c'est tout. Parce qu'on comprend que Rubens aurait forcément été un peu sensible sur la question.
Alors, est-ce que Massa a beaucoup été cité par les auditeurs?
Alors, tu m'as dit qu'il y avait 9 personnes qui avaient participé.
Oui.
Eh ben, les 9 l'ont mis.
Ah oui. Tu vois, c'est la preuve qu'il a fait une bonne course.
Non, il a fini sur le podium. Est-ce que c'est une bonne course? D'ailleurs, la preuve, il y en a un seul qui l'a remis sur le podium, c'est Globen qui dit « Mais oui, il est vivant !» Tandis que Maël l'a mis 4e, l'ont mis 5e, Fab007, Iceman Air, Sato Kamikaze. Sato qui nous dit « On n'a pas eu droit au Massa de 2008, mais il a quand même fait une bonne course. » Iceman qui nous dit « Aujourd'hui, il était dans un bon jour, ce qui est suffisamment rare ces derniers temps pour être souligné. » Tandis que Fab007 nous dit « Le Valet a fait une course de Valet, sans éclat, mais il atteint le podium, bravo. » Steph Kerr et Bilo l'ont mis 6e. Ah, on a Buchor aussi qui l'a mis 5e, j'ai oublié. On a Buchor qui l'a mis 5e, il a suivi le rythme et il finit sur le podium, mais il a été trop discret pour mériter mieux de ma part. On a Steph Kerr, donc il met 6e en même temps que Bilo. Steph Kerr qui nous dit « Il a échappé de nombreuses fois à la correctionnelle, il a tenu son rang, mais au final une course sans saveur de sa part. » Tandis que Bilo nous dit « Sans faute et en plus dans le rythme des leaders, tout ça sous la pluie, il y a du progrès. » Enfin, Enzo, quand on est passionné, on est souvent sévère envers ceux qu'on aime bien, qui nous dit un beau podium, mais une course trop discrète, donc 7e.
Et puis c'est vrai qu'au final, il prend pas vraiment de points aux adversaires. C'est la prochaine étape.
Il en prend à Button, mais de toute façon, comme Button en prend pas du tout, donc... Moi, au Brésil, j'y crois.
Ouais, mais je sens le coup... Oui, je suis capable de jouer la victoire, mais je la jouerai pas.
Oui, bien sûr. Si Massa est premier au Brésil, il laissera passer Alonso si Alonso est deuxième. Par contre, si Massa est premier au Brésil et qu'Alonso est troisième, c'est aussi une bonne opération pour Alonso. Il vaut mieux que Massa prenne 7 points sur les autres, oui, plutôt que de laisser un autre remporter la course et prendre 7 points de plus.
On passe à la 4e place.
Oui, je sais déjà à qui elle est.
Ah bon, tu penses qu'elle est à qui?
Ah, moi je dirais à un pilote. Un peu comme Michael Jackson, un pilote gris mais noir.
Il est pas gris.
Non, pas lui, mais sa voiture.
Ah, oui. Ah, sa voiture n'est pas grise. Elle est chromée. Oui. Excuse-moi. C'est pas pareil. Et tu avais raison. C'est, c'est Lewis Hamilton que j'ai mis 4e, que tu as mis 5e et que les auditeurs ont mis 3e.
Oui.
Alors bon.
Et du coup, je me retrouve avec le plus sévère. Alors que c'est pas vrai. C'est pas moi le plus sévère. Il y a pire que moi.
Il a été dans le rythme, déjà. Ce qui était, bon, on s'en doutait quand même que la McLaren sur ses belles lignes droites, ça pourrait être pas mal. Il a même réussi à doubler Alonso. Enfin.
Voilà, la faveur d'une erreur, voilà. De stand chez Ferrari.
Voilà. Il s'est vite fait doubler, mais bon. 3e. Et il a été l'autre. Parce que bon, Alonso, comme était très chanceux, mais il a été l'autre pilote chanceux, finalement. Puisque, il aurait pu n'être que 5e et il est 2e au final. Enfin, il aurait pu être, non, il aurait pu être,
oui,
il aurait pu 4e. Ouais, 5e. Ouais,
bah, derrière Rosberg, hein. Rosberg,
derrière Rosberg, exactement, ouais. Il aurait pu être 5e et au final, bah, il s'en tire avec une 2e place. McLaren, enfin, en tout cas, on pensait que les pilotes McLaren c'était déjà un peu foutu. Et en fait, il se relance. Il se relance pour le championnat.
Il est quand même à 21 points,
c'est tangent, c'est tendu, c'est compliqué.
Moi, honnêtement, Hamilton, c'est ma déception du Grand Prix.
Ah ouais.
Pour une raison toute simple. Quand tu exiges de faire la course.
Oui, c'est vrai.
La moindre des choses derrière, c'est de la faire, la course. Moi, enfin, je sais pas, moi.
Quand en même temps, faut le dire, hein, quand il dit, oui, je voulais, qu'il voulait que la course ait lieu, on sait que derrière, il y a quand même un intérêt. Il sait qu'il a besoin de prendre des points.
Oui, mais pour les prendre, il faut la faire, la course. Parce que,
ouais.
Voilà, moi, je sais pas quand, moi, je, dans, quand Hamilton me dit ça, je me dis, mais non, faut surtout pas qu'il reprenne la course, parce qu'Hamilton, il a l'air en feu, quoi, il va y aller. Il va les bouffer. Moi, j'étais sûr qu'Hamilton, il allait les bouffer. Et là, la course reprend, et Hamilton, on l'a pas vu. On l'a pas vu.
Non, il gagne des places, comme j'ai dit, finalement, plus surtout sur les abandons des autres, plus que par son talent.
Et c'est pour ça que je l'ai mis cinquième. Au départ, il était sur un podium de champion. Mm. J'avais appelé ça mon podium de champion. Puis, sur le coup à chaud. Puis après, c'est vrai que en y repensant et puis en voyant certains commentaires des auditeurs, c'est vrai que j'ai un peu ce privilège de voir les commentaires des auditeurs avant toi, Shinji. Mm. Je me suis dit, c'est vrai que finalement, Hamilton, il a beaucoup ouvert sa gueule avant la course en disant. Ah, sur le départ, en disant, ouais, c'est bon, on peut rouler, on peut mettre les intermédiaires, etc. Puis une fois la voiture de sécurité retirée, il a rien fait.
Mm.
Absolument rien. Il a même pas tenté quoi que ce soit. Alors, soit il pouvait pas, soit, il a été très prudent, peut-être qu'il a joué, la prudence, etc. Mais dans ce cas-là, quand tu joues la prudence, tu ne demandes pas à aller au combat, quoi. Si... Je sais pas, c'est comme une belle bande-annonce d'un film, et quand tu vas voir le film, tu te rends compte qu'en fait, dans la bande-annonce, t'avais tout vu. Et là, dans le message, ouais, laissez-nous partir, ouais, on pourra mettre des intermédiaires, t'as tout vu de la course. De... voilà. La course Hamilton, pour moi, se limite à ça.
Qu'en disent les auditeurs d'Hamilton?
Alors, on rejoint mon opinion et on aussi contribue à la forger Globen, qui a été plus sévère parce qu'il l'a mis 9e.
Ouais.
Alors, bon, savoir qu'il a ménagé un peu ses effets dans ses commentaires, et là, il a dit « Voilà une bonne position. Maintenant, je vais pouvoir faire un commentaire objectif. Bonne course, un peu transparent une fois, c'est à rendre terminé.
Mmh. »
Donc ensuite, nous avons Bilo qui l'a mis 4e, en disant « Plus transparent que d'habitude, mais le résultat est là. » Et ensuite, ce n'est que des troisièmes places pour Enzo qui nous dit, il a dit ce que tous les spectateurs hurlaient devant leur télévision, démarrer cette course. Bûcheur qui nous dit, il a suivi le rythme et n'a commis aucune erreur, ce qui n'était pas facile dans ces conditions. On a Steph Corr qui nous dit, j'ai aimé son attitude lors des tours sous safety car, poussant au départ, mais ensuite cette envie dont il faisait preuve a fait place à du pragmatisme, à l'état pur en préservant sa position. Une attitude triste, mais peut-être payante au final, et c'est le commentaire qui m'a décidé à le mettre cinquième, Steph Corr. Je veux pas te dire, mais c'est ton commentaire, plus que celui de Globen, qui m'a décidé à mettre cinquième. Donc t'es un petit peu responsable de cette quatrième place, finale. On a Sato Kamikaze qui nous dit dégoûté qu'il se soit raté au freinage lors d'un restart. Sinon, il serait resté devant et aurait empêché Alonso de gagner. On a Iceman Air qui nous dit lui aussi profite de la déroute des Red Bull. Il est resté au contact dans toute la course. Il faudra compter sur lui jusqu'au bout. On a Maël qui le met troisième sans commentaire. Et on a Fab007 qui nous dit un bon podium qui lui laisse un mince espoir d'être titré avec une voiture malgré tout en dessous de la concurrence directe. Voilà pour notre ami Lewis.
On passe au podium.
Alléluia.
Au top 3.
Alléluia.
Et en troisième position.
Oh oui, mon frère, en troisième position, oui.
Oui, nous allons parler.
Oh oui, nous allons parler en troisième position, mon frère, vas-y, parle.
Nous allons parler d'un vainqueur.
Non,
que dis-je? Nous allons parler d'un champion. Que dis-je? Nous allons parler d'un septuple champion.
Tu me fais mal au cœur, parfait.
Nous allons parler de Michael Schumacher. Qui, quand il ne joue pas dans Astérix aux Jeux Olympiques,
Monaco, Monza, Imola ou Yongam,
peut faire des bonnes courses en 2010.
Je la rends à Globen, celle-là. Hein. Je crois que c'est Globen qui l'a fait sur Twitter.
Donc, quand il ne fait pas des courses de chars, il peut faire des bonnes courses en Corée.
Ah, c'est mythique, ça.
Troisième place. Je l'ai mis troisième. Les auditeurs l'ont mis quatrième. Dino, tu l'as mis deuxième.
Ah ouais, putain, je me suis lâché. Mais revenons quand même sur sa participation dans Astérix, qui est quand même très kitsch.
Ouais.
Ce que j'ai aimé chez Schumacher, pendant toute sa carrière chez Ferrari, c'est son travail.
C'est vraiment le petit détail là où voilà. Tu te dis, ouais, là on, pour une fois on a notre Schumacher. C'est vrai, c'est quand on l'a vu en safety car, un peu pas naviguer, mais tu sais,
tester les trajectoires.
Ah, voilà, tester les trajectoires. Il observait vraiment pour se dire, attends. Lorsqu'il va y avoir le restart, où est-ce que je peux passer?
Et on retrouve le Schumacher qui était capable de rester 7-8 tours derrière un pilote en course à la grande époque, de rester 7-8 tours derrière, de chercher la faille, et dès qu'il avait la faille, il attendait un tour, et clac, il l'attrapait et ça passait. Voilà, moi ça m'a rappelé ça, ça m'a rappelé ce que j'aime chez Schumacher, l'homme qui est tactique, qui a le sens de la course. C'est pas forcément le mec le plus brillant quand on le regarde piloter, c'est pas un attaquant, c'est pas le mec qui a le plus de panache au volant, mais c'est un mec qui a une intelligence de course et qui a tout compris à ce que c'était que la course automobile.
C'est toujours pareil, hein. Si l'an prochain cette Mercedes est bonne, autant tu sais, parfois on se pose des questions, ça fait quand même depuis le début de la saison, parfois on se demande est-ce qu'on a encore le Schumi qu'on connaissait. Il y a ces fulgurances
Il y a ces fulgurances, mais Schumacher, il a 40, va avoir 42 ans en 2011. Il est confronté à un coéquipier qui en a 26, qui a la même voiture que lui cette année et qui fait deux fois mieux que lui.
C'est vrai que malgré tout, Rosberg aurait pu faire beaucoup mieux que lui. Hein.
Voilà, il a beau essayer de se retrancher derrière ces histoires de voiture qui est pas adaptée à son pilotage, etc. Ça n'empêche pas que Schumacher a toujours su se dépatouiller des voitures qu'il avait. C'est juste que ça se comprend. Il a plus l'âge de faire ça. Tout le monde était très enthousiaste à l'idée de le revoir et pensait qu'il allait pouvoir se battre pour le titre ou au moins se battre pour la victoire. Moi, honnêtement, aujourd'hui, sur 2011, je suis prudent. On verra en 2011. Peut-être qu'effectivement, la voiture va bien aller, etc. Mais je reste quand même dubitatif. Je pense que voilà.
C'est vrai que bon, il finit quatrième, mais quand il pense, il y a les deux Red Bull en moins. Ça fait 6. Il y a Rosberg en moins.
Oui.
Ça fait 7. Et là, déjà, on peut même dire Button.
Oui, parce que Button, il aurait... Voilà, il aurait non, quoi qu'il avait dépassé Button, donc...
Mais disons quand même que sur une course normale, normalement, oui, voilà. Button aurait fini devant. Donc, ça fait que... Il se retrouve plus vers la 8e place, théoriquement.
Ouais.
Là, faut pas oublier qu'il y a les faits de course qui sont là.
Mais, en même temps, sous une course au la pluie, il n'y a pas que les faits de course qui comptent, il y a aussi la sagesse et l'intelligence de passer au travers.
Oui.
On en parlera sans doute avec Alonso, mais des fois, il faut savoir, laisser aller. Il faut savoir passer à travers des incidents, et je pense que ceux qui ont été les meilleurs ce week-end, finalement, on l'a vu avec Soutil, hein, c'est pas ceux qui attaquent le plus, c'est ceux, au contraire, qui étaient très prudents et qui faisaient bien attention à leur...
Qu'on dit les auditeurs de Schumi?
Oh, plein de trucs que je vais me faire un plaisir de dire. Donc, nous avons Bilot qui l'a mis deuxième, comme moi, comme quoi je ne suis pas seul. Il a transcendé sa voiture en effectuant une course digne de lui quand même. Avec le Japon, ça nous fait deux courses bien réussies qui le préparent peut-être à une lutte pour le titre en 2011. Ensuite, il est mis quatrième par la plupart des auditeurs. Enzo qui nous dit deux courses de suite où l'on retrouve le pilote que l'on admirait tant. Vivement l'an prochain qu'il ait une voiture à sa main. On a Buchor qui nous dit qu'il était en forme et il a très bien su tirer son épingle du jeu. Steph Core qui nous dit la pluie fut son allié pour cette course et les essais de freinage dangereux durant les tours sous safety car avant le départ ont montré toute sa science. Au final, un bon Grand Prix et je regrette l'abandon de son coéquipier car voir leur confrontation sous ce temps m'aurait plu. On a Sato Kamikaze qui nous dit j'étais presque déçu qu'il ne finisse pas sur le podium vu la course qu'il a fait où il s'est montré franchement très rapide sur un circuit que personne ne connaissait. Ça fait plaisir de le voir en forme. On a Iceman Air, toujours quatrième, qui nous dit « Oui, je sais, je le surnote peut-être. » Quoique non. Mais il nous a prouvé aujourd'hui qu'il était toujours aussi bon dans des conditions difficiles et surtout qu'il possède une des grandes intelligences de course. Vous avez déjà vu un pilote faire des tests grandeur nature derrière la safety car. Je trouve ça tout simplement génial. On a Globen qui nous dit son co-meilleur résultat depuis le début de l'année, vivement l'an prochain, puisqu'avec la Mercedes, la Ferrari, la Red Bull, la McLaren et peut-être même la Renault, ça nous fait 9 ou 10 potentiels candidats au championnat. On a Fab007 qui nous met également en quatrième. Il me fait plaisir en cette fin de saison, agressif et incisif, espérant pour lui qu'il ait une voiture à sa mesure en 2011. Et enfin, on a Maël qui le met sixième, mais bon, sans commentaire.
On passe à la deuxième place.
Avec plaisir.
Alors, toi qui as été devin sur la troisième, est-ce que tu as une idée de qui est deuxième?
Bah, Vettel.
Oh, t'aurais quand même pu ménager le suspense.
Moi, c'est vrai, je peux la refaire. Hein.
Non, justement, c'est très bien.
Oui.
Vettel. Qui finit deuxième quand même pour un pilote qui n'a pas fini la course.
C'est bien la première fois que je suis content d'une défaite de Vettel.
Vettel, que j'ai mis deuxième d'ailleurs, que tu as mis troisième quand même, et que les auditeurs ont mis premier.
Ouais, mais il y a des anti-Alonso dans le lot, c'est pour ça. même un Ferrariste comme Globen a mis Vettel devant Alonso.
Ça se joue à que dalle.
Malimi, premier par Bilot, premier par Steph Core, premier par Sato Kamikaze, premier par Globen et Fab 007, et il est mis deuxième par les autres. Donc on a 5 premières places contre 4 deuxièmes places.
Vettel, bon, qui est un petit peu le grand perdant quand même de cette course.
Ouais, c'est à peu près foutu pour lui, hein.
25 points, et note que dimanche soir, Red Bull disait pas question de faire des consignes d'équipe. Et hier, Christian Horner a dit qu'ils allaient envisager toutes les possibilités.
Oui, mais il y a beaucoup de vent en Corée, parce qu'on a Button qui avait dit après la course, ouais, oui, je vais me mettre au service d'Hamilton, et le lendemain, il dit, non, en fait, j'ai bien regardé le classement, j'ai peut-être encore mes chances, on verra ça quand, pratiquement, je serai plus en course.
Lui, il a vraiment, enfin, il est quoi, il est à plus de, oui, je crois qu'il est à 42 points.
Il a 42 points, donc
Il a 42 points sur 50 possibles.
Voilà.
Je crois que, à Woking, on va lui expliquer certaines choses à Button.
C'est d'ailleurs une situation unique depuis, j'ai fait un article.
Oui.
Unique depuis 1973.
Il faut le dire. Pour ceux qui n'ont pas lu l'article.
Oh, c'est Shinji.
Eh bien, il faut le lire. Et j'ai même pensé à l'article lors du début de la retransmission. Parce que quand il y a eu le début de F1 Lille, il y a eu le gars là qui était sur le plateau à Paris. Et il a dit que c'était une situation jamais vue. Hein. Donc, sur quoi j'ai fait? Non, monsieur. Vous n'avez pas lu l'article de Dino sur le site du SAV? Certes, c'est une situation exceptionnelle. Comme tu le montres très bien. Mais ça n'est pas du jamais vu.
C'est pas inédit, mais c'est vrai que c'est exceptionnel parce que la saison est très longue, 19 Grands Prix.
Et alors, par contre, là, avoir toujours 5 avec plus que 2 courses...
Alors oui, c'est arrivé déjà plusieurs fois, c'est arrivé. Donc 82 et 81.
Voilà, ça sera réfi.
En sachant qu'en 82 et 81, il en restait plus que 3 après l'avant-dernier Grand Prix. Ce qui pourrait très bien arriver ce week-end puisque... Il y en a que deux qui sont portés de victoire d'Alonso, Weber et Hamilton.
Donc on voit que du côté de Red Bull, ça commence à réfléchir parce que j'ai envie de dire s'ils le font pas, ils risquent de perdre très très gros.
Bah, il paraît qu'il y a eu des appels de Dietrich Mateschitz qui a dit bon voilà bon bah pour Vettel c'est fini, maintenant faut au moins avoir le titre. C'est ça le truc, c'est que certes soutenir Vettel c'est très bien, c'est un choix d'écurie, on comprend qu'ils soutiennent un pilote plutôt qu'un autre. En tout cas moi je le comprends. Maintenant, il y a aussi un moment donné où, quand c'est plus jouable.
Ah là, c'est le moment, voilà. C'est le moment de faire les choix, quoi.
Là, mathématiquement, faut être honnête.
Tout est imaginable, hein, mais...
C'est quasiment injouable.
Voilà. Surtout que Hamilton va quand même sans doute avoir le soutien de Button, malgré ce que dit Button. Et puis qu'Alonso, on sait que ça fait déjà plusieurs courses que c'est déjà le cas. Donc, Vettel qui aurait pu... Enfin, il aurait pu gagner et même prendre la tête du championnat.
Oui.
Et qui est trahi... par son moteur. Alors je sais pas si c'est exactement le moteur ou...
C'est le moteur apparemment, mais c'est vrai que la cage du moteur, au départ on a pensé que c'était le fond plat qui avait lâché.
Ah, on voit des étincelles au niveau du fond plat. Hein.
Mais apparemment c'est le moteur qui a cassé. Voilà, c'est...
Oui, en plus c'est rare hein, quand même de la part de Red Bull. En général c'est des choses autour du moteur, ou de l'électronique, ou les freins cette année. Mais le moteur Renault casse assez peu.
Alors c'est Jean-Luc Moncey qui disait hier dans Autocritique, lui il pense en fait que comme le moteur, c'est vrai qu'on en a plusieurs fois parlé, le moteur est vraiment très très, la coque est moulée sur le moteur quasiment, et lui il a parlé d'une sorte de bulle autour du moteur, et donc lui il nous disait que peut-être les tours au ralenti à la safety car ont fait surchauffer le moteur qui, quelques 20-30 tours après, a cassé. Il a vieilli plus vite, en fait, sous les tours sur safety car. Il a vieilli plus vite, il a pris plus de kilomètres que normalement. Et donc, il est arrivé en fin de vie pendant la course.
Parce qu'en plus, Vettel est sous la menace d'un neuvième moteur.
Tout comme Alonso, maintenant.
Ouais.
Donc, sachant que, comme les deux derniers Grands Prix, même si c'est des Grands Prix où on va avoir besoin des moteurs, c'est pas non plus... c'est pas Monza, quoi. Donc.
Non. Alors, qu'ont dit les auditeurs de Vettel?
En deuxième position, l'ont mis Maël, sans commentaire. Iceman Air qui nous dit « Aucune erreur, en tête du début à la fin, du moins jusqu'à la sienne, et une maîtrise complète des éléments. » Bouchard qui nous dit « Bien qu'il ait abandonné peu avant l'arrivée, il mérite à mon avis cette place, car c'est la machine qui l'a trahi et l'a privé de la victoire. » Tandis qu'Enzo nous dit « Malheureux comme bien souvent cette année, mais a fait une course parfaite. Comment va-t-il se comporter en porteur d'eau pour Weber ?» Les autres auditeurs l'ont mis premier, Bilo, qui nous dit « Un excellent week-end sans faute jusqu'à cette casse moteur. Vraiment pas de chance pour Seb, qui depuis deux courses était très appliqué. » On a Steph Quark qui nous dit « Je ne m'abaisserai pas à dire que c'est le vainqueur moral de cette course, mais lui seul a dominé le Grand Prix après une séance de qualification parfaite. Il réussit à dominer l'ensemble du plateau sous la pluie, atteignant même un écart de 13 secondes sur ses poursuivants. Et sans cette casse moteur, il aurait remporté cette course, la dominante de la tête des Coronets. »
Au pire, parce que c'est vrai qu'Alonso revenait fort quand même, hein, même si c'est peut-être aussi lié au moteur. Oui, il aurait fini au pire deuxième. Hein.
Puis on a parlé un peu tout à l'heure, et je pense qu'on en reparlera, Alonso a perdu des grosses poignées de secondes en début de course, mais c'est volontairement apparemment, c'est-à-dire qu'il a vraiment voulu partir doucement, trouver son rythme, trouver ses marques, ne pas faire d'erreurs, ce qui a coûté cher finalement à Weber, qui est peut-être parti un peu trop vite dans sa course et qui a pas pris suffisamment de connaissances. Et en fait, Alonso a vraiment choisi de partir petit et à chaque tour d'améliorer sa performance pour vraiment apprendre le circuit dans les conditions un peu ce qu'a fait Schumacher.
Oui.
Mais lui, il l'a fait au début de son run, donc il a perdu du temps, puis peu à peu en fait, il est revenu parce qu'il a appris le circuit et que il a finalement mieux exploité le circuit que ce qu'a pu faire Vettel. Et sans doute qu'effectivement la casse moteur pouvait s'anticiper. D'ailleurs, c'est Jean-Louis Moncey qui disait, encore lui, Jean-Louis Moncey qui disait hier que plusieurs fois, juste avant, Vettel avait dit « Oui, on n'y voit plus rien, il faudrait arrêter la course, etc. » et que peut-être ça indiquerait qu'il avait déjà un soupçon comme quoi le moteur allait lâcher. On a donc Sato Kamikaze qui le met lui aussi premier. Il a tenu en respect Alonso pendant presque toute la course pour abandonner à seulement 9 tours de la fin. J'ai vraiment les boules pour lui sur ce coup. On a enfin Globen et Fab 007 km également premier. Globen qui nous dit moteur français et carburant total, ça ne pouvait que mal finir. Bon, j'avoue, mon côté Dr Vettel prend le pas sur mon côté Mr Ferrari. Et enfin Fab 007 qui nous dit encore une fois, rien à lui reprocher, un week-end parfait, son abandon est le symbole de la saison, un pilote qui domine le championnat mais qui ne peut pas concrétiser. Et voilà tout pour les commentaires des auditeurs.
On passe par notre vainqueur.
Oh, on peut faire rapide.
Fernando Alonso, que j'ai mis premier, que tu as mis premier. Et donc, naturellement, qui a été mis deuxième.
Bande de traîtres.
Alonso qui a quand même été super chanceux.
Oui, non, mais oui, oui, chanceux. Mais on peut pas non plus réduire sa course à de la chance.
Non, non, mais voilà, la différence entre sa seconde place et sa victoire, c'est quand même un peu beaucoup de chance.
Non. Il a de la chance. Maintenant, il y a aussi des situations où Alonso a manqué de chance. Je pense notamment à Valence, par exemple.
Ouais.
Je pense notamment aussi à la Belgique. La course de la Belgique n'est pas la même s'il se fait pas rentrer dedans par Barrichello. Voilà. Lui, il l'a dit. Il a dit, moi, j'ai eu mes moments de malchance. Maintenant, c'est les autres qui ont leur moment de malchance. Au final, malchance et chance, ça va s'équilibrer. La chance va répondre à la malchance que j'ai eue. Voilà. Maintenant, moi, je pense qu'il a fait une course très intelligente. Il était venu pour avoir une troisième place, tout comme au Japon. Et là, encore une fois, il en espérait pas tant. Ça fait partie des aléas. Il a fait une très bonne course, très prudente. Et je pense même qu'il aurait pu. Personnellement, je suis convaincu qu'il aurait pu aller chercher Vettel sans sa panne moteur.
Puis continue sa folle série. Hein.
3 victoires en 4 courses, c'est ça?
Ouais, 3 victoires en 4 courses et une troisième place. Hein. Qu'ont dit les auditeurs d'Alonso?
Moi, je vais citer que ceux qui l'ont mis premier, d'accord. Non, déjà, je vais éviter de citer Bilot, hein, qui nous a dit, mais c'est vraiment sans intérêt, qui nous a dit un sans faute, mais il subit la chance qui veille sur lui encore. Voilà, rappelons quand même qu'il y a eu des périodes de malchance hein, chez Alonso cette saison. Nous avons donc tous ceux qui ont mis Vettel premier, ont mis Steph Corr deuxième, ont mis Alonso deuxième, dont Steph Corr, qui nous dit Alonso, the lucky driver, a une chance de malade, se faisant dominer par Vettel et suivi par Weber, ce qui amenuisait ses chances au championnat. Dame Fortune lui a accordé la victoire. J'espère que sa femme était à ses côtés durant la course, sinon, à sa place, je me poserai des questions. La pauvre Raquel. C'est ça, c'est Raquel qu'elle s'appelle.
Ouais. Enfin.
Elle est belle en plus. Ensuite, on a Sato Kamikaze qui nous dit, il fait chier à faire des bonnes courses, je suis obligé de le mettre dans mon top 10 alors que je peux pas le blairer. Ça me fait rire ce genre de commentaire. On a Globen qui le met deuxième aussi. Excellente opération, opportuniste, tandis que Fab 007 nous dit que dire à part qu'une telle réussite le rapproche du titre. Et donc, ceux qui avaient mis Vettel deuxième ont mis Alonso premier, à commencer par Enzo qui nous dit opportuniste comme toujours, il ne lâche rien depuis le mois de juin au Canada. Il a dit à qui il voulait l'entendre, j'étais de ceux-là, qu'il pouvait jouer le titre. Il s'en est fortement rapproché ce week-end. On a Bouchard qui nous dit « Bien que ça me fasse mal de le mettre si haut, je te taquine, Dino. Il le mérite amplement. Voiture fiable, pilotage au top comme d'habitude et surtout, il n'a commis aucune erreur alors que c'est sur ce point que souvent la différence se faisait. » On a Iceman Air qui l'a mis toujours premier pour avoir su tirer les marrons du feu, mais surtout pour avoir été le seul à finir avec des pneus en bon état alors qu'il n'a pas lâché Vettel un seul tour. Maël qui le met premier sans commentaire, et enfin Dino qui le met premier, sans commentaire également, tellement il a été soufflé par... Mais alors, j'ai dit sur Twitter que j'étais dans un état à la fin de la course, j'ai été fatigué tout mon dimanche.
Mmh. Ah ouais?
À cause des 10 derniers tours, parce que, alors ça m'a renvoyé au Brésil 2007.
Oui.
Qui avait été très stressant. Et ça m'a surtout renvoyé la course pour le titre, je crois que c'était à Suzuka, en 2003, où il fallait que Schumacher marque au moins un point si Kimi gagnait, et là on avait Kimi qui gagnait et Schumacher qui était 7e ou 8e, donc il marquait pile poil un point, et où j'étais, toute la course j'étais là en me disant prouve que ça marque, et vers la fin de la course, mais j'étais... J'en tremblais, et j'étais là, je disais à Alonso, mais calme-toi, attaque pas, à un moment donné, il mettait 4 secondes à Hamilton, je disais, mais arrête, ralentis. Et donc vraiment, j'étais, mais c'est un état que j'aime aussi, je pense qu'on va en reparler parce qu'on a un drive-through, où je pourrais en parler, mais c'est aussi voilà, dans le sport, il y a des moments comme ça où on entre dans des états où on se reconnaît pas. Après, c'est vrai que bon, je me suis calmé, voilà, je suis redevenu comme tout le monde, mais, voilà, la vibration du sport te fait rentrer dans une sorte d'état second, et là j'étais devant ma télé, je bougeais pas, j'avais peur de bouger parce que j'avais peur que si je bouge, tu sais l'effet papillon, il y a un contre-choc sur la course d'Alonso, et je m'en serais voulu quoi, tu vois. Donc c'est vraiment terrible.
On va passer au classement du SAV, et cette fois-ci je vais te nommer les top 5, mais je vais le faire en sens inverse.
Ah, oh, ah. J'aurais bien des exclus du championnat du SAV. Ah.
Donc, au championnat pilote, Jenson Button est à 157 points. Lewis Hamilton est à 191. Oui, Mark Webber, 198.
Oui.
Sébastien Vettel, 237. Fernando Alonso, 245. Cela veut donc dire que le champion, ils sont plus que deux, 50 points. Alonso à 245. Ah non, oui, ils sont trois.
Webber, c'est 197, c'est ça? 195?
198, oui, donc il...
198, donc il a 47 points de retard.
Ouais, 47 points, exactement. Ils ne sont plus que 3.
Oula. C'est moins serré dans le SAV, quand même.
Enfin, Webber a quand même beaucoup de retard, ça sera probablement, oui, voilà, Alonso ou Vettel.
Vu qu'on a tendance, même quand les pilotes abandonnent à rentrer, ça sera soit Alonso, soit Vettel. Sans doute.
Chez les constructeurs, Renault, 165 points. Mercedes, 192. Ferrari, 343. McLaren, 346. Red Bull, 435.
Bah, ils sont champions, alors.
McLaren a 89 points de retard.
Oh, à 3 points!
Et donc, pour 3 points, Red Bull est le champion constructeur du SAV 2010. Et oui, Red Bull, avant même le classement FIA, est titré chez nous. Et ça, oui, c'est voilà. La classe.
Donc si vous avez des amis qui travaillent chez Red Bull, hein, n'hésitez pas à leur dire qu'ils sont champions du SAV, ça leur fera plaisir.
Oui.
Enfin, on verra en fait. Attendez d'abord de voir s'ils sont champions en vrai.
Ouais.
Je pense que ça leur fera plaisir s'ils sont champions en vrai. S'ils sont pas champions en vrai, on risque d'être saisis.
Dans l'autre classement, Fernando Alonso mène donc le championnat. Il ne l'avait plus mené depuis la Malaisie.
Ouais.
Avec 231 points. Mark Webber est à 220 points, 11 points de retard. Lewis Hamilton, 210 points, 21 points de retard. Sébastien Vettel, 206 points, 25 points de retard. Jenson Button, 189, 42 points. Parce que même si les écarts sont franchement agrandis, les 5 sont toujours mathématiquement, oui, en course.
À noter que d'ailleurs que l'écart entre Alonso et Webber est le même écart qu'il y avait entre Webber et Alonso avant le Japon, je crois. 11 points.
Et à noter que Alonso peut être titré au Brésil.
Oui.
Et que j'ai les situations où il peut être champion. Donc, Alonso sera champion au Brésil si il gagne et Webber ne fait pas mieux que 5e, ce qui est tout à fait possible.
En sachant que de fait, s'il gagne, il marquera 7 points plus que tout le monde. Donc automatiquement, bah, Button-Vettel et Hamilton, qui est à 21 points, il y aura forcément une victoire de plus pour ces trois-là. Donc le seul paramètre, dans ce cas-là, ce sera Webber.
Deuxième possibilité, s'il termine deuxième, et que Webber ne fait pas mieux que huitième, Hamilton ne fait pas mieux que quatrième, et Vettel ne gagne pas.
Voilà.
Troisième possibilité, Il termine 3e. Weber ne fait pas mieux que 10e. Hamilton ne fait pas mieux que 5e. Et Vettel ne gagne pas.
Si Vettel finit 2e, il marquera plus de points qu'Alonso. Donc normalement, il devra repasser devant. Il devrait revenir dans la fenêtre des 25.
5. Tu m'as dit ici. Si Vettel...
Si Vettel finit 2e et qu'Alonso finit 3e, Vettel marque plus de points que qu'Alonso, donc il est devant.
Justement, Vettel ne gagne pas. Si Vettel ne gagne pas, c'est qu'il est 2e.
Bah oui, bah s'il est 2e, il marquera forcément 3 points de plus qu'Alonso.
Attends.
Donc il reviendra à 22 points.
Ah oui. Ah, c'est bien, tu es plus fort. Ah. Tu es plus fort que ESPN F1.
Mais qui n'est pas plus fort que ESPN F1? Désolé les gars, mais il faut se rendre à l'évidence.
Chez les constructeurs, Red Bull est à 426 points, McLaren est à 399.
27 points d'avance seulement.
Ah oui, quand même.
C'est pas joué, hein.
C'est pas joué, alors qu'on pensait que finalement ça serait assez tranquille pour Red Bull. 27 points, il y a encore 86 points à distribuer. Ferrari 374, Mercedes 188 et Renault 143.
Donc Renault peut encore mathématiquement avoir la quatrième place, mais...
Dans leur rêve, oui.
D'ailleurs, je crois que Kubica est passé au classement devant les deux pilotes Mercedes.
Oui, Kubica est 7e avec 124 points et il est devant Rosberg qui en avait 122.
Ouais. C'est se dire s'il y avait vraiment un deuxième pilote, capable de marquer des points chez Renault, bah Renault serait devant.
Oui, puisque Petrov n'en a que 19 malheureusement. On va passer au fait marquant de la course. Alors, revenons sur le Grand Prix du Japon, où quand même la victoire faisait peu de doutes. Donc, est arrivé en 3e position, la fin probable des chances de titre pour les pilotes McLaren, 10%, 3 votes. En même temps, ça ne s'est pas arrivé, ça ne s'est pas avéré complètement vrai, finalement.
Oui, voilà.
En 2e position, la première victoire de Vettel depuis 4 mois, 20%, 6 votes. Et donc, faut bien le dire, il avait éclaboussé de tout son talent le Grand Prix du Japon. Le festival offensif de Kobayashi, 70%, 21 votes.
Ouais.
Alors, c'est les auditeurs qui sont arrivés 3e.
Oui, et on a eu 3 faits marquants, mais on va falloir en choisir un.
Ouais.
On va procéder à un tirage au sort à l'ancienne.
Oui.
Alors, Shinji, tu as donc le choix entre les 3 champions de 82, 86 et 99, à savoir Rosberg pour 82, Prost pour 86 et Häkkinen pour 99.
C'est tentant de finlandais en français. Ah, allez, je vais dire Prost.
Prost, et donc ce sera le fait marquant de Bilot, que l'on va retenir comme fait marquant des auditeurs, puisque c'est l'erreur de Weber à un très mauvais moment pour lui.
C'est un bon fait marquant.
À noter, oui, un bon fait marquant, digne d'un premier choix d'ailleurs. Mmh. À noter les deux autres faits marquants qui étaient proposés par Enzo, 7 mois et 10 jours après Bahreïn, Alonso reprend la tête du championnat. Mmh. Tandis que Fab 007 nous avait proposé de parler soit d'un Grand Prix de Corée globalement réussi, ou alors du syndrome Highlander qui touche les adversaires d'Alonso 1 à 1. Voilà.
Qu'est-ce que je vais mettre?
Oui, parce que t'as été le deuxième une nouvelle fois.
Comme souvent. J'ai envie de mettre Vettel qui a presque perdu le titre.
Et moi, pour être d'accord avec l'article qu'on a fait sur le site du SAV, je mettrai plus que 2 courses, toujours 5.
Ah ouais, sympa. Tu te rends compte, on n'a même pas parlé de flotte et d'interruption de course.
C'est dingue.
C'est dingue.
Donc pour voter, comme d'habitude, sur le site du SAV, www.savf1.fr, vous avez déjà sans doute voté pour la plupart d'entre vous, et vous aviez le choix, ou si vous allez voter après, vous allez avoir le choix, entre l'erreur de Weber à un très mauvais moment pour lui, Vettel qui a presque perdu le titre, et enfin, plus que 2 courses, et toujours 5.
C'est le thème du championnat du monde, hein.
Voilà. D'ailleurs, faut rajouter toujours 5 prétendants. Parce qu'il faut que toujours 5, on sait jamais, au cas où que les gens ne sauraient pas. qu'on aurait un fan de rugby qui viendrait, et qui connaît pas la F1 et qui voudrait quand même répondre au truc, ça serait quand même bête que je perde une voix là-dessus, quoi.
On passe au drive-thru.
Le service à présent de la F1 vous présente les drive-thru of the weekend. Quand les animateurs disent que franchement, c'est pas bien.
Alors, déjà, est-ce que les auditeurs ont mis des drive-thru cette semaine?
Eh ben, il y en a des drive-thru, hein. Il y en a 4.
Waouh!
Je vais peut-être garder celui de Global pour plus tard, puisqu'on va sans doute beaucoup en parler. Ouais. On va d'abord parler de celui de Bilot, Qui nous dit « Je mettrai un drive-thru à McLaren et Ferrari pour leur manque de fair-play, comme l'a dit Sauber, quand Vettel a eu un problème. Je ne me souviens pas avoir vu une seule image des mécanos de Red Bull applaudir quand Alonso, Hamilton ou Button ont soit eu un problème, soit commis une erreur. Je trouve que c'est tout simplement irrespectueux de la part de ces deux grandes équipes que d'agir de la sorte quand, face à elles, il y a une écurie vieille de seulement 5 ans. C'est nul. »
C'est vrai que se réjouir du crash de quelqu'un...
Mais en même temps... Il y a une, c'est pas que c'est anti-sportif, mais c'est des réactions humaines à un moment donné, voilà. C'est des gens qui bossent toute l'année, 24 heures sur 24 pour ça, c'est des mécanos qui sont passionnés, qui n'attendent que ça, et qui, bah, effectivement, voient leur tomber, dans les bras, dans le bec, tout cuit, un bon résultat et un mauvais résultat pour leurs rivaux directs. Est-ce que c'est fair play? Non. Maintenant, c'est humain et c'est compréhensible.
C'est notre drive pour des auditeurs?
Oui. On a un drive-thru d'Enzo, par exemple. Mmh. Je sais pas, c'est un peu comme mon drive-thru de l'Italie. Voilà, c'est plus une mise en garde qu'un drive-thru, mmh. Puisqu'il nous dit « Kerman Tilk prenne donc de la graine de la piste de Corée, car franchement, j'ai trouvé très belle par rapport à certaines bouses qu'il a fait ces dernières années. » Voilà.
Ouais, il peut faire des bons trucs, ne l'oublions pas.
Oui. On a Buchor qui nous dit « Plutôt que de faire le drive-thru auquel tout le monde pense contre les commissaires qui ont lancé, à mon avis, la course trop tard, j'ai envie de faire l'inverse et d'attribuer un point bonus. » D'ailleurs, je pense que le point bonus, ou tout autre nom que vous voudrez lui donner, devrait être une récurrence dans l'émission afin de contrebalancer le côté négatif du drive-thru. On voit les mecs, tu vois, qui ont participé à l'émission tout de suite. Ils...
Voilà, ça y est. Ça pète, on s'autorise et tout. Des trucs,
ouais,
voilà.
Ouais, on a fait une émission du SAV, maintenant on peut commencer à suggérer des idées. Ça va pas, t'es fou. Et puis, ça permettrait de mieux mettre en avant un fait ou une déclaration un peu décalée, amusant du week-end. Bref, mon point bonus ira donc à Hamilton, alors que certains pilotes disaient les conditions mauvaises pour lancer la course ou la luminosité insuffisante à la fin, Lewis Hamilton ne demandait qu'une chose, courir. Je trouve que ses échanges radio avec les stands sont révélateurs de l'enthousiasme qu'il a. Je ne veux pas blâmer les autres pilotes pour leur prudence, car les conditions étaient mauvaises, mais je tenais à souligner ce trait de caractère d'un pilote souvent décrié dans le SAV, et à juste titre d'ailleurs. Bon, c'est bien, c'est gentil, Busseur, mais... Le point bonus, ça n'existe pas en F1, les points bonus.
Non, c'est vrai.
Voilà. Viens, propose-nous ça avec un vrai nom, classe.
Ah oui.
Et peut-être qu'on y réfléchira. Nous, on est comme ça, nous. Nous, on est bling-bling. Ouais. On aime bien ce qui brille. Voilà.
Si tu veux des trucs classe et tout.
Voilà. Avec un truc classe, si ça a un bon nom, peut-être que ça rentrera. Mais là, non, point bonus, puis on va quand même pas se faire chier à trouver un nom, quoi. On a déjà dû trouver podium de l'actu, concours top position, Oh, on va quand même pas faire tout le boulot. Et donc enfin, je garde le meilleur. Alors, pour la fin, si tu dis.
Justement, parce que j'en ai un petit, donc je préfère le dire maintenant, avant qu'on s'attaque au gros morceau. Alors, c'est un drive-thru contre la FIA, d'ailleurs. Mais pas un truc un peu annexe. C'est juste par rapport à l'hypocrisie de la FIA, qui nous a dit, oui, mais ne vous inquiétez pas, pour les prochains circuits, nous, alors, ils ont dit, nous réappliquerons la règle des 90 jours. Comme si la règle avait été supprimée. Ce qui n'a jamais été le cas. Ils se sont juste assis dessus. Voilà. Disant, voilà, on n'hésitera pas. Puisque vous savez que normalement c'est 90 jours minimum avant la course qu'une piste doit être homologuée. Sinon la course ne peut pas avoir lieu. Elle ne peut pas avoir lieu l'année qui suit. Et donc, la FIA a dit, pour les prochaines situations, nous serons beaucoup plus stricts, hein, et nous respecterons cette deadline. Voilà, c'est très hypocrite, parce que, bon, alors, visiblement pour l'Inde, pour l'instant, on n'a pas d'écho de retard particulier. Par contre, pour Austin, on n'a même pas mis le premier coup de pelle, on annonce déjà des retards. Attendez, on parle du Grand Prix, du retour de la F1 aux États-Unis. Vous allez nous dire que la FIA va pas tout faire pour que la course, le grand retour de la F1 aux États-Unis ait pas lieu à la date prévue, hein. Vous y croyez tous, franchement?
Non.
Vous croyez que si on a le même cas qu'en Corée, en Russie, avec le pognon qu'il y a en Russie, ils feront pas la même chose?
Et donc la Russie, ils ont une petite porte de sortie, donc ils pourront toujours dire, oh non, en fait, on le fait l'année prochaine.
Voilà. Donc voilà, c'était cette petite hypocrisie de la FIA, j'avais envie de dénoncer.
D'ailleurs, on a eu cette magnifique phrase, cette réaction de Charlie Whiting, qui a dit que si ça n'avait tenu qu'à lui, il aurait pas donné son accord à la Corée. On lui rappellera quand même que ça ne tenait qu'à lui, justement, de dire non, on va pas en Corée.
Oui.
Ils ont peut-être l'autorité, mais ils ont pas les couilles qu'il a avec.
Oui. Voilà.
Donc, on va passer au drive-through de Goben.
Ouais.
Hein, le mien pouvant venir rajouter une petite virgule sonore à la
peu,
fin.
C'est un peu... J'ai failli le taper sur Twitter, en fait. Je voulais marquer que dans l'esprit des animateurs du SAV, il y avait une espèce de super drive-through qui était en train de naître.
Oui. Oui, c'est vrai. Et donc, effectivement, c'est un drive-through proposé par Globen, qui nous dit, bien sûr, un drive-through pour la direction de course, et pas besoin d'expliquer pourquoi. Mais expliquons quand même pourquoi, Shinji.
Ah. Donc, premièrement, il y a le report du départ de la course, qui peut se discuter. Est-ce utile avec toujours ce départ? Est-ce que les pilotes ne sont quand même pas des grands garçons? Faut le dire, hein, il y a quand même quelques années de ça, les circuits étaient beaucoup moins sûrs, les voitures étaient beaucoup moins sûres, et par des temps pareils, ils sortaient.
La FIT l'a dit d'ailleurs.
À la rigueur, qu'il y a un départ sous safety car, c'est vrai que, pour éviter un carnage au premier virage, ça peut se justifier.
Oui.
Mais on parle bien d'un départ sous safety car. Donc, la notion de départ, c'est 1-2 tours. Vous êtes bien d'accord? Alors, là où la FIA, pour une fois, a fait un truc potable, c'est qu'ils n'ont mis que 3 tours pour décider de s'arrêter. Est-ce qu'il devait s'arrêter? J'ai parlé en début d'émission du Japon. Au Japon, il y avait un aquaplaning à partir de 70 km/h, donc c'était pas possible. Là, le problème n'était pas de l'aquaplaning, c'était de la visibilité. Alors la question, c'est où est la part de précaution? On peut quand même considérer que les pilotes, comme j'ai dit, c'est des grands garçons.
C'est terrible, mais ça fait 60 ans que la F1 a des courses sous la pluie. Je me suis pas nécessairement c'est vrai que j'aurais dû le chercher, mais j'aimerais savoir sur les une vingtaine de morts, je crois, en Formule 1. Je suis pas certain qu'il se soit, il y en ait beaucoup qui se soient tués par des courses de pluie. Je pense que finalement, sous la pluie, certes, c'est dangereux parce que, il y a des sorties, il y a des accidents, ça augmente le coefficient d'erreur.
Mais les pilotes ne sont pas des cinglés non plus.
En plus, comme tu le dis, c'est un problème de visibilité. En laissant sortir la safety car, les écarts se creusent, la visibilité, elle pose plus de problème.
Oui.
Alors que là où c'est dangereux, c'est quand t'as une queue-leu-leu qui est obligée de tourner pendant 10 tours et que, effectivement, derrière les mecs ne voient rien et il y a même, je me demande si c'est pas Weber qui disait, moi je sais pas comment les autres font pour voir, je vois même pas la lumière qui est devant moi.
Donc là, on a fait 3 tours.
Oui.
Et là encore, on a quand même eu 45 minutes d'interruption.
Au paradoxe, alors que toi-même, je viens de dire, autant ils ont été rapides à réagir sur le fait de mettre le drapeau rouge, autant on a vu Joe Bauer, le frère de Jack, Joe Bauer remonter la grille, voiture par voiture, pour demander à chacun ce qu'il en demandait. Genre, tu sais, les mecs, ils ont pas de radio.
Oui.
La FIA connaît pas la technologie.
Oui. Donc, ils sont repartis à 16h05, heure locale, sous safety car une nouvelle fois. Donc là encore, cette situation-là peut se débattre, mais elle peut se comprendre aussi. Et on a eu... une sorte de petit comeback de... C'était quoi? C'était Fuji 2007 ou 2008?
Ouais, Fuji 2007, c'est l'année du titre d'Hamilton. C'est l'année du titre d'Hamilton.
15 tours, alors que tout le monde avait compris quoi au bout de 2, à peu près, hein, le temps que chacun fasse le tour, voit un peu comment ça se passait au niveau de chaque virage et tout ça. Au bout de 2 tours, globalement, on a quand même jugé que ça pouvait repartir, parce que la visibilité allait en s'améliorant, que... visuellement, on voyait qu'il commençait de pleuvoir de moins en moins, avec toujours ce problème que t'as évoqué, et qui a été d'ailleurs très justement évoqué par les commentateurs, c'est qu'en laissant les voitures derrière la safety car, les pneus ne chauffent pas, ils sont plus froids.
Les freins ne chauffent pas,
c'est
peut-être même encore plus grave.
Une trajectoire ne se trace pas.
C'était pas des torrents qu'il y avait sur la piste. C'est vraiment une couche d'humidité qu'il y avait et qui, finalement, dès que la voiture roulait, l'eau, elle s'effaçait, elle s'est évaporée.
Évacuée. Les pneus évacuaient bien. Fallait juste laisser les voitures rouler. Enfin voilà, 14 tours, on aurait pu en faire 2, quoi. Clairement.
Alors après, ça s'attend mis en avant le fait que on en a parlé, le fait que Vettel ait joué sur le fait que oui, on voyait pas très bien, etc. Ça fait partie de la logique. Faut quand même rappeler que c'est quand même la FIA qui prend la décision. C'est pas le leader qui décide. C'était la même chose à Fuji. T'as parlé de Fuji en 2007. Hamilton aussi a fait sa mijaurée en disant non, on n'y voit rien, etc. Mais au final, c'était pas la faute d'Hamilton. C'était la faute de la FIA. D'ailleurs, je me contredis peut-être par rapport à un SAV qu'on a fait à l'époque. Mais c'est la faute de la FIA qui doit prendre aussi la décision toute seule. Donc Last week-end, on a appris que la FIA, elle avait subi des pressions pour l'acceptation des circuits, c'est-à-dire que finalement, elle n'est pas suffisamment grande pour choisir elle-même les circuits, etc. Et on a aussi en même temps appris que la FIA était totalement dépendante de l'avis des pilotes pour savoir quand il fallait faire rouler des voitures.
Et donc, on aurait pu se dire au 18e tour, c'est bon, la FIA va plus nous embêter, on va avoir droit à notre course. Mais là, c'est là qu'arrive un autre problème, hein. Celui qui va peut-être faire que on va peut-être nous créer des circuits avec un toit. Pour éviter la pluie, surtout pour pouvoir mettre des projecteurs, puisque on est parti à 16h05 et que le crépuscule était prévu à 17h44. Ça, je m'en souviens parce que c'est une équipe, je crois, c'est le nom de ces Ferrari ou Mercedes qui l'a annoncé. Avec ce problème, c'est que avec la barrière des 2 heures, parce qu'on se doutait que la course ferait les 2 heures, et ben avec les 2 heures, ça allait au-delà de 17h44. Et ben là, on peut se poser la question est-ce qu'il fallait continuer la course jusqu'à la fin dans ces conditions de luminosité. Certains ont dit que ça ne les avait pas forcément gênés, d'autres si. Je crois que Barrichello a dit que la FIA aurait dû arrêter.
Surtout le problème en fait, c'est les diodes sur les volants en fait. Ce qui les dérange plus, plutôt que la luminosité, c'est les diodes sur leurs volants qui sont très bien pour le jour parce qu'elles sont bien voyantes. Par contre, la nuit, elles les éblouissent et elles les aveuglent quasiment.
Oui, en plus.
Mais par exemple, ceux qui ont vu Le Mans cette année avec des images intérieures de la Peugeot.
Oui, les diodes elles ressortent.
Voilà, vous voyez que la lumière à l'intérieur de la Peugeot. Vous êtes vraiment ébloui. Vous dites le pilote, comment il fait quoi? Comment il fait pour pas être ébloui? Mais justement, moi, j'en reviens donc à mon drive-through, puisque dans mon drive-through, tu parlais d'hypocrisie de la FIA tout à l'heure. C'est cette hypocrisie de nous faire quasiment perdre une heure de course et de nos dimanches matins pour rien, soi-disant parce que c'est pas sûr pour les pilotes, et quand même à la fin, pour finir le nombre de tours et pour avoir un beau nombre de tours à la fin, histoire de dire on a fait les 55 tours, quand même à la fin, on n'a pas hésité à rallonger le temps de 5 minutes.
Oui.
Hein. Alors qu'il faisait nuit, que c'est totalement inconscient d'essayer des pilotes rouler de nuit, on n'a eu aucun regret à laisser les pilotes rouler dans ces conditions-là, au risque d'un accident. Non, c'est pas grave. On fait chier les gens parce qu'il y a de la pluie, mais par contre, sur piste encore humide, et alors qu'il fait nuit, on peut les laisser rouler, histoire de finir les 55 tours, comme ça c'est fait, hein, on n'a pas de problème. Et moi j'ai trouvé ça, mais ce qui m'a encore plus énervé que l'heure et demie où on a attendu, c'est ça. C'est de me dire, voilà, on nous a fait tout un caca nerveux pour nous dire, attention à la sécurité des pilotes, etc. Et à la fin, on les met consciemment en danger. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça?
Oui, et c'est intéressant ce que tu dis sur les 2 heures, la fameuse limite des 2 heures, puisque le temps officiel, Je l'ai dit presque en rigolant lors de l'intro, c'est 2h48, parce qu'elle prend en compte l'interruption. Il y a eu, il me semble que c'est entre 44 et 45 minutes d'interruption, hein, pour être précis. Ouais. Ça veut donc dire qu'il y a eu 2h34 de course, à peu près. Hein. C'est à la louche, hein. Je vous l'accorde, ouais. C'est à la louche. Le tour, il est à 2 minutes, donc ça veut dire qu'il y a au moins un ou deux tours qui ont été au-delà des 2 heures.
Mais c'est pas difficile, je me rappelle même de m'être fait une remarque. À un moment donné, Christophe Malbranque a dit il reste 3 minutes, parce que vers la fin il commençait à nous décompter le temps.
Oui.
Il disait il reste 3 minutes.
Et 3 minutes, tour après, c'est un tour et demi.
Et un tour après, il nous dit il reste 5 minutes.
Et c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué, je ne sais plus sur quelle course. Il y avait dû aussi y avoir de la pluie ou des safety cars, ou c'est peut-être du genre Monaco, quelque chose comme ça. Et c'est pareil, la course, alors là il n'y avait pas eu d'interruption de drapeau rouge. Et je crois que la course avait été créditée de 2h05. Alors c'est pas beaucoup, hein. À chaque fois on parle de un ou deux tours. On est bien d'accord. Mais en même temps, il y a un règlement. Ouais. Ça veut dire qu'on pousse, oui, on peut dire on pousse les voitures pour qu'elles fassent, voilà, leur nombre de tours total pour que ça fasse vraiment un grand prix complet.
Quelle crédibilité peut avoir la FIA quand elle essaie de faire appliquer son règlement si elle-même elle s'assoit sur son règlement, que ce soit le règlement du durée de validation d'un circuit où elles se sont assis dessus comme pas possible. Ils ont beau dire qu'ils ont eu des pressions, mais quand même c'est comme eux qui ont l'autorité suprême. Et là on le voit. Pour moi, honnêtement, ce week-end, la FIA a perdu toute crédibilité.
Voilà.
Je pense qu'on a bien fait le tour.
Voilà. On a bien enfoncé la FIA, je crois. Y a pas de souci. On passe au concours.
Oui.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Opposition. Un concours sans musique qui fait flipper ni question à la con, quoique.
Donc, la question nous était proposée par Fab007, qui l'avait emporté pour la première fois, et qui vous demandait, à vous, chers auditeurs, pour quelle raison Jacques Lafitte peut-il en vouloir aux organisateurs du tout premier Grand Prix du Japon? Et la réponse était Shinji.
Donc, Jacques Lafitte, lors de ce premier Grand Prix du Japon, a probablement fait le meilleur tour.
Oui.
Et le problème, c'est le probablement. Puisque, en fait, le meilleur tour en course fut attribué à Masahiro Asemi, un illustre inconnu.
Oui.
Mais c'est sans doute Jacques Lafitte qui fit le meilleur temps de la course, puisqu'apparemment, il y a dû avoir des problèmes de chronométrage.
Oui.
Alors, cela a été admis par les organisateurs, mais jamais officialisé. Donc voilà.
C'est beau. Hein.
Là, normalement, Jacques Lafitte, il a un meilleur tour en rab, mais qui lui est pas reconnu officiellement.
C'est quand même terrible, quoi.
Ouais. Et donc, a-t-on des réponses et des
alors,
questions?
Alors oui, nous avons... Alors, nous avons des réponses avec des questions, mm-hmm. et nous avons des questions sans réponse. Donc, nous avons par exemple Maëlle qui nous a envoyé une question, mais elle n'a pas répondu à la question. Donc, bien évidemment, sa question ne sera pas utilisée pour choisir. Et nous avons donc 4 réponses, et donc, par conséquent, 4 questions sur ce Grand Prix de Corée. Donc, on rappelle rapidement que comme c'était la première édition, vous avez proposé des questions sur le Grand Prix de Corée ou sur une alternative qui était le Maroc. Et vous avez tous été courageux, vous avez tous trouvé des questions sur le Grand Prix de Corée. Donc on vous en félicite. On est un peu déçus parce qu'on aurait bien voulu des questions sur le Maroc, mais bon. Alors, Shinji, tu vas avoir le choix entre ces 4 questions, je te les lis. Que s'est-il passé sur le circuit de Yeongam le mercredi 29 septembre 2010?
Ouais.
Ensuite, le circuit de Corée étant considéré comme urbain, combien de circuits réellement urbains ont-ils accueilli la Formule 1? D'ailleurs, l'auteur de cette question reconnaît aussi que sa question peut prêter à discussion.
Ouais, ça qui est... Ok.
Troisième question. En plus de ses conseils et des plans, qu'a apporté Hermantic pour que le circuit puisse accueillir le Grand Prix à temps? Et enfin, dernière question. Pour sa première édition, le Grand Prix de Corée se place 51e d'un classement où ne figurent que des courses des années 50 et 60. Lequel?
C'est pointu, ça.
C'est pointu, oui. Alors, Shinji, tu as ces 4 questions, tu as le choix. À toi de me dire laquelle.
J'ai bien envie de prendre celle sur Tifke. On verra si les gens, ils ont suivi les essais.
Eh ben, va pour la question. Qui était donc, en plus de ses conseils et des plans, qu'a apporté Herman Tilk pour que le circuit puisse accueillir le Grand Prix à temps? Pour répondre, vous allez sur le site du SAV, www.savf1.fr, rubrique contact, vous sélectionnez questions concordantes à proposition, vous nous envoyez votre réponse sans oublier une question pour le Grand Prix du Brésil qui aura lieu dans 15 jours. Et donc, bien évidemment, nous avons un vainqueur.
Ouais.
Et ce vainqueur n'est autre que Bouchard. Bouchard qui, je crois, prend la tête des auditeurs avec, je crois, 4 bulletins. Dans l'urne du tirage au sort final qui aura lieu après le Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc bravo Bouchard pour cette victoire. Et nous remercions passage Globen pour sa question sur les circuits urbains, Loulaz pour sa question sur ce qui s'était passé sur le circuit de Yeongam le mercredi 29 septembre 2010, et donc un nouveau participant qui participait pour la première fois. Et je pense que ça l'a ému de participer pour la première fois puisque pendant longtemps... Il a participé à sa manière à cette question, en la répétant parfois de nombreuses fois, puisqu'il s'agit d'Enzo qui avait posé cette question sur la place qu'occupait le Grand Prix de Corée dans une hiérarchie. Je peux vous le dire, je peux vous donner la réponse. Il s'agissait en fait du classement des Grands Prix les plus longs de l'histoire, et la Corée donc se classe 51e dans ce classement.
À cause du coup justement des 2h40 je suppose.
Voilà. Et oui, il n'y avait donc que des courses que des années 50 et des années 60. C'était un indice, mais un indice subtil et très, très, très bien amené.
Ah oui.
Voilà, voilà.
Ok. On arrive à la fin de l'émission. Alors d'abord, on va parler du Brésil.
Oui.
Alors, qui pour le Brésil? Sachant que là, plus on avance, plus nos pronostics prennent des proportions et des implications dramatiques.
J'aurais tendance à dire d'abord que je ne crois pas à McLaren au Brésil. C'est un circuit qui leur réussit pas trop ces dernières années, un circuit qui reste malgré tout, même s'il y a des travaux, assez bosselé, et la McLaren est très rigide. Donc j'ai quand même du mal à croire que les McLaren pourront vraiment être très performantes là-bas, en tout cas être devant les Red Bull et les Ferrari. Moi je miserais, parce que j'ai de l'espoir, je miserais sur Massa et donc sur une victoire d'Alonso.
Je me demande si tu ne l'as pas déjà sorti celle-là l'an dernier ou je sais pas quand.
Ah, sans doute.
Ça devait pas être avec Alonso ou
je sais pas quoi. Ça devait être Raikkonen.
Avec un truc genre je parie Massa donc Raikkonen, un truc comme ça. Écoute.
Maman est près de toi, faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi.
Ah, c'est monsieur de la dernière fois. Bon, je vais la chercher. Je crois qu'elle est dans son bain. Et je sais pas si elle va pouvoir venir.
Dis-lui, je t'en prie.
Moi, j'ai envie d'une victoire de Weber. Écoute bien, n'importe qui à la deuxième place et Alonso troisième.
Parce que tout ça pour avoir un point à
Abu Dhabi. Un point à Abu Dhabi. Ce qui serait génial, voilà, tout simplement. Sur ce, on va remercier nos partenaires de toujours.
Non, mais honnêtement, moi je souhaite que Alonso gagne et que Weber soit minimum cinquième.
Et puis alors là, bien évidemment, bon, c'était déjà mal barré, mais sortie de piste, cramage de moteur interdit. Hein.
Là non.
C'est fini. Là il y a plus de joker, non c'est fini là.
Je dirais même pour beaucoup victoire d'Alonso interdite. Hein.
Ouais.
Cette victoire d'Alonso, ça veut dire qu'il serait plus que deux minimum. Il serait plus que deux, Weber étant le seul, les autres étant à plus de 25 points et Weber à 18 points. Donc faut donc éviter de victoire de Massa.
Oui.
Faites l'homme à regarder au Brésil, c'est Massa.
On remercie nos partenaires habituels.
On a une petite pensée aussi pour Globen qui est convalescent.
Oui.
Bon potage.
C'est à noter que sur le site, il y a une petite case Facebook, parce qu'avant il n'y était pas.
Oui.
Hein. Et maintenant vous pouvez dire j'aime le SAV de la F1.
Oui. Alors il y avait un groupe Facebook, mais là c'est vraiment une page de fans comme Lady Gaga quoi. Mais pour le SAV avec 8 fans.
Mais sans la robe en viande.
Voilà. On ne sait pas trop à quoi ça va servir pour le moment. C'est juste que c'est mieux qu'un groupe quoi.
Sur ce, nous allons nous quitter. Nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne soirée, comme d'habitude.
Oui.
Et comme d'habitude, nous allons vous laisser sur de la littérature, j'ai envie de dire. Puisque monsieur, dans son inspiration rouennaise, s'est inspiré de Corneille.
C'est un extrait d'une pièce qu'aurait pu écrire Corneille, mais que n'a pas écrit Corneille.
L'auteur, hein, pas le chanteur.
Nous arrivâmes 5 conquérants, mais par la pluie du nord venant, nous repartîmes 5 prétendants, les devants l'Espagnol reprenant.